Yeah. Hey. Okay. Hey. I got my brothers and my fam standing next to me. I go to war for what I love until the death of me. You pussies quitting in the first is not a threat to me. Because what breaks me is what makes me, it's my destiny. I know we heard it all before, but let me give it to you straight. When you're back against the wall, you just step up to the plate. Who to call? Who gon' fall? Don't be asking who to blame. Go insane, ayy. Since I lit the flame, I ain't scared to burn away. Burn away. Since I lit the flame, I ain't scared to burn away. Leave a trail behind, leave a fucking grail behind. Snails getting turned into the cargo that we left behind. Into your prime, we the dimes, upper echelon. Run the field like Megatron, always keeping pressure on. I got bitches picking sides, digging ditches, ditching five. Making music in your pics, bae, you photosynthesize. Work it out and make your mind. Is you with it, are you sliding? Just because you win a lyric doesn't really mean you mine. I got things to do, but I don't got the time to do anything but win. I gotta shine. This is bigger than just me, I gotta climb. With all the guys, I got my brothers and my fam standing next to me. I go to war for what I love until the death of me. You pussies quitting in the first is not a threat to me. Because what break me is what makes me, it's my destiny. I know we heard it all before, but let me give it to you straight. When you're back against the wall, you just step up to the plate. Who to call? Who gon' fall? Don't be asking who to blame. Go insane, ayy. Since I lit the flame, I ain't scared to burn away.
As far as the eye can see, this flame gon' light the way. I'm closer to my destiny. Don't expect no less from me, 'cause one day I'll be burning away, burning away, burning away.
Allô les amis, on va couper cette musique, très sympathique pourtant, vous allez bien? Grosse journée de stream, on s'est fait un petit MVP ce matin, très sympa, et les jours où il y a MVP, on fait une mini revue de presse avant et on fait une grosse revue de presse après, puisqu'il est hors de question que l'actualité se résume à une heure de stream. Donc on va reprendre les sujets de ce matin, mais on va les développer un petit peu. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Ne quittez pas, on va lancer également sur TikTok le live double chat, deux fois plus de plaisir, deux fois plus d'ambiance. Et en ce moment, il y a de l'ambiance d'ailleurs. C'est ça qui est bien. Démarrer le live. Ok. J'arrive, hein. Tenez, je vous mets ça bien. Voilà. Tac. Comme ça, on a tout le monde. Je règle juste un truc et on y va. Voilà. Bougez pas. Je règle juste un truc et je suis à vous, les amis. Ah, attendez, c'est où déjà? Je suis en train de faire un petit réglage sur le chat. Je suis là. Je suis à vous dans 10 secondes, littéralement. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Ok, on est bon. Super. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Je vous lis un petit peu, pardon. Est-ce que 2027 est compromis? Je pose la question calmement. Non, bien sûr, Mix, tout va bien de ce côté-là. Bien sûr, ça va la team? Salut, STW. Ce soir, il y aura du gaming. J'ai le droit ce soir, laissez-moi prendre mon agenda. J'ai le temps pour streamer un peu de gaming ce soir. Ah, le grand cactus, Cali, c'était incroyable. Incroyable, bougez pas. Vous avez aimé le MVP de ce matin? Voilà de ce que c'est de regarder un streamer qui a connu les dinosaures. Voilà. Entre autres, hein, Napoléon aussi, Jeanne d'Arc, tout ça, c'est que son agenda, littéralement, dans un agenda papier. Ouais, je sais. Donc c'est là où il faut que je regarde pour savoir si, si je peux streamer ce soir. Ouais, ça va se réveiller tout. Oui. Un petit peu de Battlefield 6 ce soir. 6, 7, 3, 2, je sais plus, 6. Si. Ah. Salut Akai Live, tout est sur, regarde, c'est écrit. L'après-midi, Étienne, on lit les journaux ensemble, polémique, pour les polémiques, allez voir sur X si j'y suis. T'as toutes les infos à tes questions. L'essentiel, les choses importantes dans l'actualité, c'est ici. Hein. On va se pencher sur l'actu internationale, nationale, sociale, économique. On va parler de dette, d'immigration, de déclassement des jeunes, d'animé aussi. Il y a un film animé qui sort au cinéma qui a l'air incroyable. Alors ça, c'est l'essentiel. Et les polémiques, c'est sur X. Dans les amis de Twitch, amis de TikTok, on est quand même un peu au-delà de ça, quoi. Hein. Merci. Oh, ça fait plaisir, Marceau. Première fois que je suis là en live, ça fait 2 semaines que je te suis tous les jours en podcast. Alors ça, c'est cool parce que c'est tout nouveau et c'est la communauté qui nous l'avait demandé, c'est-à-dire de mettre ces revues de presse qui existent depuis 5 ans sur Twitch, je vais les mettre également en podcast audio pour que les gens puissent les entendre un petit peu quand ils le souhaitent, vraiment podcast audio hein, sur Deezer, Spotify, la plateforme Apple Podcast aussi. Et donc on l'a fait début septembre et ça a beaucoup de succès, on est super content quoi. Donc bienvenue à toi. On va parler de la tempête aussi dans un instant, je ne sais pas si certains dans le chat sont déjà touchés par les vents violents qui étaient... annoncé quoi. La seule polémique qu'il va y avoir, c'est pourquoi tu ne regardes pas JL, donc Job Life et Mandatory. Alors moi, je croise les doigts très fort, Manix, pour les deux équipes françaises en lice actuellement. Il y a 2 places à prendre pour monter en VCT sur Valorant. Donc l'équipe de Zera, l'équipe de Tommy, 2 personnes que vous le savez, j'apprécie énormément quoi. Même si mon niveau de jeu n'est pas vraiment un niveau de jeu VCT. Alors je les soutiens. C'est vrai que je pourrais regarder. En tout cas, moi, en général, quand je regarde un match, je soutiens une équipe, elle perd. Je ne sais pas si vous avez, ce problème, vous. Et donc, en ne regardant pas ces deux équipes, eh bien, peut-être que quelque part, c'est la meilleure façon de les soutenir. Voilà. En tout cas, vraiment, j'espère que Mandatory et que Job Life... vont avoir leur place quoi. Salut Boubou, salut Captain Simu, salut Villager, Villager peut-être. Merci Caradir, merci Pomme d'Api. Si je calcule, c'est la dernière fois avant les vacances pour le gaming. Ouais, demain matin il y aura une revue de presse. Demain matin je me lève très tôt pour participer à une émission enregistrée sur RTL sur la PGW vers 8h. Je reviens ici après pour la revue de presse et après je pars en fin d'après-midi jeudi pour des vacances parce que j'avais prévu de prendre un peu de repos pour avec mon épouse et mes enfants et donc on va voir la famille, ça va être top. Sans setup, pas de stream, donc ça s'arrêtera pas jeudi soir, vendredi il y aura rien, samedi il y aura rien, dimanche il y aura rien, lundi, mardi, mercredi je reviens, mercredi soir il y aura du stream. Samuel, tu ressembles étrangement à mon prof de sciences, me dit Selmar. C'est parce que je suis ton prof de sciences, parce que je fais beaucoup de choses. Ouais. Même ma mère utilise un agenda numérique. Je sais, mais Hélène me dit sans arrêt, je dis, mais quand est-ce que tu passes à l'agenda numérique? Non. Ah non, je ne suis pas au courant de ce livre. L'enseignante qui a fait lire le livre d'Assa Traoré en Vendée, les extrémistes de Zemmour qui s'offusquent. Ils s'offusquent de beaucoup de choses, non? Ils sont un peu fragiles, non? As-tu un avis là-dessus? Écoute, je connais pas cette actu, mais c'est très intéressant par contre. Ouais. Ça a parlé de Kaamelott. Enfin, on a parlé de Kaamelott Timbaland, parce que dans MVP, mon émission de ce matin d'il y a 15 jours, c'est 2 numéros par mois, on a reçu Alexandre Astier. Tu l'as en replay sur la chaîne YouTube de MVP, quoi. Donc on a pas mal parlé déjà. On est au du sommaire. On a même pas commencé le sommaire. Si, on est dans le bonjour. On est dans le bonjour. Ouais. Merci Sticky Twitch, tu régales. Là, mon plaisir, tout à l'heure, on a reçu Catsup, une créatrice de contenu que j'adore, que j'aime beaucoup, donc je suis très admiratif, parce que malgré sa jeunesse, elle a fait tellement de choses, voilà, elle est tellement... Enfin bon, elle a beaucoup de détermination, et en même temps, quelqu'un qui dit elle-même qu'elle a été très timide et que Twitch lui a fait énormément de bien. Et Catsup, comme tous les streamers et toutes les streameuses, merci Juroscoff, elle dit à quel point c'est important pour elle le chat, quoi. Et voilà, et tous les streamers, toutes les streameuses sont pareils. Notre plaisir, c'est de discuter avec vous, quoi. Donc c'est mon petit plaisir, je vous lis un petit peu, quoi. Merci soldat français. Merci beaucoup pour ton message. À bientôt. Ça commence à souffler à La Rochelle. Donc le vent arrive. Je viens de découvrir la tempête en rentrant chez moi. Il faut que j'aille faire les courses avant de m'enterrer. Ok, Rodil. Prudence avec la tempête. Attention avec les vents violents. Hein. Soyez hyper prudents dans vos déplacements, quoi. Vraiment. Oui, mon tatouage est terminé. Je suis retourné à Montpellier pour le terminer, celui qu'on avait fait au The Event. Je suis vraiment très content, mais il est tellement cool que j'ai très envie maintenant de le poursuivre, même s'il est terminé, et d'en faire tout un dos. Parce que je n'ai pas le... Mon dos n'est pas tatoué entièrement. Et donc, c'est le prochain projet. En plus, j'aime beaucoup Lunar, qui, cette streameuse. Cette streameuse. Non, elle a... Ah, quoi qu'à une époque, elle a streamé un peu, elle m'a dit. Cette tatoueuse de Montpellier. Ça souffle aussi sur le bassin d'Arcachon. Ok. Exode Ghost, il faut que tu quittes TikTok, il faut que tu ailles sur X. T'as toutes les infos sur X, mon chéri. Tu diras moins de bêtises. Va sur X. Alors, c'est le réseau du diable, hein, c'est le réseau du démon. Mais va un coup juste voir les communiqués des uns des autres, des dernières infos, parce que t'es en retard d'une guerre. Et reviens ici après. Reviens, mon pruneau. Reviens. Et merci pour ton follow. Merci, Neven. Tu sais, tout va bien. Tout va bien. Moi, je suis droit dans mes principes. Voilà, je pense qu'il faut avoir des principes dans la vie, il faut avoir des valeurs. Voilà, et mes prises de position, mes moves. Sont déterminés par des choses qui sont mes valeurs et en fait qui sont moi, quoi. Donc à partir de là, je suis plutôt bien, quoi. Merci Adi TV. Ouais, le sommaire, il est fou. Il y en a pour 10 heures dans votre presse, là. Embrasse ta mamie, Luan. Embrasse ta mamie. J'ai acheté mon agenda pour 2026. Moi aussi, Lucie, je l'ai déjà. Combien j'ai de tatouages ? J'ai 4 gros dragons. J'ai 4 dragons. J'en fais un tous les 4-5 ans à peu près. Ouais. Samuel, rends le collier au Louvre, s'il te plaît. Je ne répondrai pas à cette question. Samuel, les vidéos humoristiques de la TV belge où tu es sur le plateau avec les sketchs sur Sarkozy, c'est récent ou pas ? Ça a quelques jours, c'était à Liège. Alors, c'était la semaine dernière. C'est très récent. Cette immense émission belge s'appelle le Grand Cactus. C'est le Grand Cactus, c'est ça ? Qui est formidable, quoi. Ouais. Merci Juroscoff, merci pour tout le soutien, merci pour le 45e mois et merci pour le message. Merci Elia, merci Wendy, Yuna, merci René32 pour les soutiens. Tu penses quoi de l'arrêt de la chaîne Game One ? C'est une connerie absolue. C'est une chaîne qui fait de l'audience, c'est une chaîne qui gagne de l'argent. Voilà, mais les propriétaires américains, je crois, de cette chaîne, il y a eu un rapprochement, il y a eu une fusion, il y a eu un rachat, je sais pas, ils en ont rien à carrer. Quoi. C'est bien dommage. Dommage que personne ne rachète cette chaîne en vrai. Ouais. Merci beaucoup, Neven. Ouais, le projet caritatif de Catsup est incroyable. Oh, je crois que j'ai beaucoup de retard sur les messages, pardon. Mais bon, c'est mon plaisir, je vous lis. Alors, si vous avez l'impression que je ne vous lis pas, c'est juste que je suis en train d'essayer de rattraper mon retard sur le chat qui est très actif. Quel genre de dragon ? De dragon un peu asiatique, je dirais. Ouais. En pleine recherche d'emploi, dur de garder le moral face à tous les refus. Est-ce qu'on peut envoyer la force à Gibou Gibou, s'il vous plaît, dans le chat Twitch, qui nous dit être en pleine recherche d'emploi et... Pour qui c'est dur de garder le moral face à tous les refus, je me mets à ta place. Voilà, et on t'envoie de la force, s'il vous plaît. Tu vas trop nous manquer la semaine prochaine, tu préfères tes vrais enfants à nous, je suis désolé. Dragon, culture chinoise, ouais, un peu, ouais. Un peu ça, ouais. Merci Marie Marmotte. J'essaie d'être droit dans mes valeurs. Dans les Bouches-du-Rhône, pas vu la météo, mais ce matin, 6h des orages, ok. Ok. Ça commence en Lorraine. Klemovic coupe son stream, Sam commence, j'aime ce super timing. J'ai pas fait exprès, je suis rentré après MVP, donc MVP c'était ce matin de 9h à 13h quoi en gros, ouais. Après je reste après MVP là-bas pour enregistrer des petites pastilles, des petites chroniques vite fait, ça me prend une heure ou deux en général. Et après j'échange avec les gens là-bas parce qu'il y a plein de gens avec qui je bosse que j'aime beaucoup. Et après je suis rentré, j'ai écrit un petit communiqué vite fait là, j'ai parlé un peu avec mon épouse qui travaille à la maison en ce moment. J'ai écrit un petit communiqué vite fait et je suis venu vous voir. J'avais pas vu que Clément était en live. J'ai envie de commencer le stream, mais j'ose pas par peur de pas savoir comment animer. Aurais-tu des conseils? Enamor Death Water. Twitch, c'est un outil de partage de passion. Si tu as une passion, si tu aimes ce que tu proposes, le contenu que tu proposes, que ce soit du jeu, du gaming, de la culture, du jardinage, de l'actu, si tu aimes ton contenu, si tu viens pour partager quelque chose, si tu aimes échanger avec les gens, ça va bien se passer. Si tu es curieux, si tu es dans l'empathie, si tu es là pour dire des choses, mais pour écouter aussi les autres, ça va bien se passer. C'est le conseil que je te donnerais. Après, au début, c'est compliqué d'avoir des gens. Mais c'est sympa. Ouais. C'est pas grave, Yasmine, c'est la vie, tout va bien. Je suis vieux, moi j'ai le cuir super tanné. Tiens, à voir la fin de Kaamelott comme tu as vu ton 3 minutes. Oui. Samuel, est-ce que tu nous montreras le dragon tatoué quand il sera complètement fini? Bof, parce qu'en fait, j'ai arrêté le sport et mon corps ressemble à une petite motte de beurre fondu. Ouais, il faudrait que je reprenne le sport. Mais comme Kalina Katsup a parlé de son événement caritatif là, autour du sport, voilà, ce qui est compliqué, c'est quand tu n'as pas d'objectif sportif, c'est compliqué de faire du sport de façon un peu régulière, voire intensive. À une époque, j'avais beaucoup d'objectifs de sport. J'ai course à pied, triathlon. Et donc, je savais quand j'avais une course dans 3 mois, dans 6 mois, qu'il fallait que je m'entraîne parfois un peu dur pour être à niveau. Mais je m'entraîne. J'ai plus du tout de projet sportif parce qu'aujourd'hui, mes projets, c'est plutôt de streamer. Et du coup, comme j'ai plus de projet, bah, je fais plus de sport. Mais maintenant que Katsup m'a proposé de son projet, m'a parlé de son projet, et ben du coup, waouh, merci à Anastasia pour les 5 abonnements offerts à la commu et l'abonnement que tu prends pour toi. Merci. Merci Bardino. Bah du coup, ça pourrait me motiver, ouais. Ça pourrait me motiver. Merci pour les encouragements que vous avez envoyés à Gibou. Louane du 25, pardon, qu'est-ce que tu dis? Que pensez-vous de la diffusion de questions pour un champion seulement le week-end? Mais t'as une vidéo sur YouTube sur ça, j'ai fait un stream. C'était quand? C'est en août ou en juin? Enfin, il y a longtemps là-dessus. Voilà. Hein? Un stream d'une heure, t'as tout ça. C'est vieux ça. Hein, c'était il y a très longtemps. Hein. J'ai vu l'extrait de Cactus avec Kadhafi. Ah, le grand Cactus, c'est une dinguerie. Merci Nucci. Je vais très bien, Melvi. Merci beaucoup. Courage à ceux qui cherchent du taf. Tentez l'intérim en attendant, dit Zoé. Ma mère a jamais raté question pour un champion. Eh ben, tu l'embrasses très fort, ta maman. Si. C'est cool, l'ambiance est trop chill. Comment ça se fait que l'ambiance soit aussi chill en ce moment? Il n'y a pas les gens de Twitter, là, de X? C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont fatigués? Ils ont trop donné. Alors ils ont plus, savent plus quoi dire. Merci Amuster. Mathieu, voilà. Je pense que ta bêtise ressemble à ton orthographe. C'est catastrophique. À bientôt. Si, je me disais, ils sont où les débiles là? Et en fait, j'en ai toujours trouvé. Hein. Mais c'est pas facile, hein, parce que vous êtes globalement. 99,99% le chat est cool, c'est compliqué de trouver les débiles, mais j'en ai trouvé un là. Le problème, c'est les vacances, il y a beaucoup d'enfants, quoi. Parfois, c'est pas fini, quoi. Regarde, lis bien mon dernier communiqué, Moussoubi, tu verras que. Si tu lis bien mon dernier communiqué, tu verras que ça répond à ta question. Les gens qui lisent trop vite, en fait. Faut vraiment lire, vraiment. Alors je sais, c'est long, hein, par contre. Ah, qu'est-ce que je suis long. Ouais. J'ai essayé d'aller à l'essentiel, mais tu verras que c'est pas tout à fait ce que tu crois. Merci à un homme lent pour ton 31e mois. Merci Ludima79. Lance Valo, non, c'est l'actu. Merci Zeldam. Vous êtes incroyable. Merci Emma. Est-ce qu'on peut envoyer un peu votre force, s'il vous plaît, dans le chat Twitch à Hello Pixel qui nous écrit un message qui est très fort. Merci Samuel d'avoir parlé de santé mentale ce matin. On a parlé de santé mentale au travail. Moi, ça fait un an que je suis en arrêt pour dépression car j'ai subi du harcèlement moral et aujourd'hui, je vais devoir passer au prud'homme avec mes employeurs auxquels toute communication est rompue et parfois les journées ne sont pas faciles. Alors moi, je t'envoie un max de force parce que, vous ne le savez pas, mais je vois très bien de quoi veut parler Hello Pixel et je vois très bien ce que vit Hello Pixel. Peut-être qu'on est très nombreux à avoir vécu d'ailleurs ce genre de choses. Voilà. Et tu rajoutes, en étant maman de deux enfants, on essaie de garder le sourire et faire que tout va bien alors qu'au fond de soi, on se sent hyper détruit. À aucun moment, le travail doit faire ça. À aucun moment, le travail ou la façon de se comporter d'une entreprise doit faire ça à quelqu'un. Quoi. Voilà. Donc, et sache, Hello Pixel, tu es dans le chat Twitch, mais dans le chat TikTok, il y a plein de messages pour toi. Il y a des forces à toi, il y a des forces et courage à vous, madame. Voilà. Hein, il y a le travail, c'est un plus. Ta vie personnelle passe avant tout. Donc, je vois dans le chat Twitch, il y a beaucoup de cœur aussi. Voilà. Hello Pixel, tu n'es pas seul. Tu n'es pas la seule à vivre ce genre de truc. Et il faut que tu comprennes que le comportement de ton employeur ici, parce que je vois que tu passes au prud'homme, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne doit pas t'affecter. Hein, tu sais, ta valeur ne dépend pas de ça, quoi. Ta valeur, c'est celle que tu vois dans le regard de tes proches, de tes enfants dont tu nous parles, de tes amis. Voilà. Hello Pixel, voilà. Et en tout cas, n'hésite pas à te confier dans le chat et de revenir régulièrement si ça ne va pas, quoi. Je sais que tu le sais, mais ton plus beau trésor aujourd'hui, c'est tes enfants, quoi. Voilà. Et voilà. Prends bien soin d'eux. Merci Oshigray. Merci Bandinigo. Merci Rafoulfo. Incroyable. Merci Folie Douce. Merci PHXL. Folie Douce, il n'y a pas des restos un peu chic, un peu branchés qui s'appellent la Folie Douce, comme ça? La boussole nous dit, moi aussi j'ai vécu ça, j'ai quitté mon job en septembre après 19 ans. Waouh. Je viens de déménager, de trouver du travail, trop contente. Il y a des bonnes nouvelles aussi dans le chat. Une boîte de nuit à Val-Thorens en plein milieu des pistes. Pas seulement. Il y a d'autres. La Folie Douce, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, je crois. Il y en a plusieurs. Il y en a eu une première. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ces endroits-là. C'est trop bruyant pour moi, mais il y en a plusieurs, la Folie Douce, je crois. Il y en a eu une et après, il y en a eu d'autres. Est-ce que vous votez Macron? Parce que je vois des commentaires disant Samuel le macroniste. Oui, je suis macroniste. Alors après, ça dépend de la source, parce que je suis aussi d'extrême gauche, selon certains. Je suis aussi un soutien de l'extrême droite, selon d'autres. Alors je suis effectivement aussi macroniste, ça dépend des gens que tu lis, en fait. Alors j'ai des moments où je suis bien communiste aussi, mais parfois pas du tout. Il y a des jours où je suis plutôt LR, à droite. Donc c'est comme tu veux, en vrai. M'en fous. Merci My Crazy Sketch. Après, je suis habitué, moi. Tout va bien, tu sais. Ah ouais. Je vous lis. Vos lives ne posent pas trop de soucis pour votre travail d'animateur. En fait, la question, c'est est-ce que mon travail d'animateur me pose des soucis pour mon travail de live? Parce que mon travail principal, essentiel et le plus important à mes yeux, c'est ce que je fais ici, en fait. La télé, c'est en plus, c'est un petit bonus, quoi. Donc, à un moment, le jour où la télé gênera mes activités sur les plateformes, sur les réseaux, il faudra que j'arrête la télé. Tu vois, c'est l'inverse, en fait. Merci Anasthenia. Merci Bandinigo pour l'abonnement offert à Hello Pixel, notre maman tout à l'heure. Merci Rafoulfo. Oui, c'est plus l'inverse, en fait. Est-ce que tu peux le dire à un moment donné? Bien sûr, je peux te le dire à un moment donné. J'aime beaucoup ton pseudo, de toute façon. Je suis en CDI étudiant, je n'ai jamais eu un bonjour le matin des autres employés, un bon début. Mais c'est quoi ces boîtes? T'es en CDI? C'est quoi un CDI étudiant? Le matin, les autres employés ne disent pas bonjour? Mais c'est quoi ces entreprises? Salut Pierrot. Voilà, tu fais un beau métier, profite bien. Merci Vivaldi. Amis de Twitch, savez que je suis sur les cœurs que vous avez mis sur Allo Pixel. Je suis très en retard sur le chat, mais j'aime trop vous lire. Salut à un moment donné. Force à toi. J'aime bien ton pseudo, hein, je te le redis. T'inquiète. Après, moi, j'ai la chance d'être très bien entouré. Par mon épouse d'abord, par mes enfants, par les gens avec qui je travaille sur les plateformes. Voilà, et en vrai, quand t'es entouré comme ça, c'est facile, quoi. Actuellement, t'es que sur Twitch. Je suis sur les deux. Je suis sur Twitch et TikTok en ce moment-là. En fait, l'actu, je l'ai fait sur les deux. Et le gaming, je le fais uniquement sur Twitch. Merci, Keldorn. Ouais, je pensais que c'était important ce point-là. Ouais. À un moment donné, il me dit, moi aussi, j'ai un chéri en or et deux enfants en pleine forme. C'est ça qui est important. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Wilfried, quel journaux je fais dans la revue de presse, fais point d'exclamation RDP, point d'exclamation RDP dans le chat, revue de presse RDP, et tu ça te dit quel journaux je lis. Putain, je suis dans le chat Twitch, je suis au débat sur Folie Douce là. Putain, y a rien qui va là, je suis trop en retard. C'est du live, on est en live. Demande-moi de dire un mot et tu vas voir, je dirai ce mot. On est en live. Max Tombre, bienvenue. Qu'est-ce que vous voulez que je dise comme mot? Centriste, je peux dire centriste. Je peux dire un, ouais. Je peux dire Samuel Président, ouais. Vous voulez que je... Eh ben, embrasse ton genre et ta fille. Je peux dire pizza, je peux dire pomme, y a pas de souci, ouais. C'est du live. Que pensez-vous du vol du Louvre? Ouh, on en a beaucoup parlé. Tiens, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. On va en reparler du vol du Louvre, tiens. Merci chat, tu régales. Merci à un moment donné, merci Sip, merci Vivaldi. Crêpe ou galette? Ah! Bretagne en balade, c'est un piège ça. Galette, moi, je suis de d'Ille-et-Vilaine, je suis de Rennes. Donc. Arco, c'est un animé, c'est un film animé. Jean-Ri, et le Parisien nous dit que c'est peut-être le plus beau film animé de l'année. Ouais, Arco. Merci, Capcivic. Merci, Yavana. Bisous à ton fils. Bah, ça me fait bien plaisir ce que tu dis. Je sais pas comment il s'appelle, embrasse-le bien fort. Merci, Foxmo. Est-ce que je serai à la Paris Games Week cette année? Alors oui. Alors je devais y être jeudi prochain et finalement on n'a pas réussi à monter l'événement avec les amis d'MVP. Mais par contre j'y serai le samedi pour une petite surprise, j'ai pas le droit de vous dire, mais un truc vraiment bien je peux rien dire. Je suis invité à faire un truc avec plein de gens sympas. C'est une petite surprise, c'est samedi 18. 8h, je crois. Voilà. On me l'a mis sur la grande scène de la PGW. Donc, ceux qui sont à la PGW. Attends, vous voulez que je vous lise? Agenda électronique. Merci à Anastasia pour les deux abonnements offerts à la commu. Ah non, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Oui, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. C'est le samedi 1er, donc novembre, 18h30, 20h. Ethan, il s'appelle Ethan. Embrasse-le bien, c'est un très joli prénom. Gratte-toi le nez. Hop, ça y est, c'est fait. Désolé, le chat Twitch, je suis en retard sur vous. Ok, faut que je dise chaussettes, faut que je dise Louvre, cacahuète. Ok. Navet, zizi, ok. Non, Monkey, la revue de presse, en fait, je la fais le matin, tous les matins, sauf les jours où j'ai mon émission MVP qui prend en fait la case du matin. Et du coup, je fais la revue de presse après. Parce qu'en fait, pour moi, la revue de presse, c'est tous les jours. Et c'est comme un devoir. Enfin, je vous la dois, quoi. Si je ne la fais pas, je trouve que c'est un contrat qui n'est pas respecté. Voilà. Dit, ici, c'est Paris. Merci, Mika, le 11 Lyonnais, vous êtes trop gentil. Putain, j'ai un retard sur le chat Twitch, j'essaie d'accélérer. J'ai vu la BA d'Arco, c'est très, déjà très beau, me dit Sugar. Okay, on va en parler d'Arco. Tu penses quoi de tous ces pays qui commencent à être tous en guerre civile? En fait, Kangoo, j'ai vu ton message, tu l'as dit plusieurs fois, je ne savais pas trop quoi te répondre. Si tu parles notamment de la génération Z, la Gen Z qui se soulève dans plein de pays, Madagascar, Maroc, et puis asiatique aussi, Indonésie, si je dis pas de bêtises. En fait, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est hyper intéressant. Ah oui, alors ce matin, j'étais en live Zabou, mais sur Twitch. Parce que MVP, je la fais sur Twitch. C'est une super émission. T'as le replay sur ma chaîne Twitch, gratuit, ou sur YouTube. Voilà. Et voilà. Parce qu'en fait, je fais que la revue de presse sur TikTok. Sur Twitch, je fais bien plus de choses, quoi. Mais je trouve que la revue de presse se prête bien à TikTok. Merci Gibou Gibou. Merci Marceau, HBK. Est-ce que vous portez toujours des t-shirts super comme dans Question pour un champion? Dans la vraie vie, je porte que des t-shirts bleu marine. Je m'habille en bleu. J'ai des sweats bleus, des t-shirts bleus, des caleçons bleus, des chaussettes bleues, des pantalons bleus, des chaussures bleues. Je ne suis pas très original. J'ai des piles de t-shirts bleus et des pantalons bleus et c'est tout. Ouais. Ah, j'ai réussi à attraper mon retard sur le chat Twitch. Ok. Trop bien. Des bleus de travail. J'aime le bleu. Ah, bon, bah, c'est bon, les amis. Combien on a fait d'intro, là? Petit quart d'heure? 32 minutes, c'est normal. Le bonjour, c'est 32 minutes. Je sais pas qui est Étienne Chouard, Manoline. Les amis, c'est parti. Voilà. L'Arco, c'est un dessin, c'est un film animé. Et Life is Strange, c'est bientôt Linux, ça revient. Quand je dis j'aime le bleu marine, ça n'est pas une rêve politique. Je vois les références là. Eh, le chat Twitch, je vous vois là avec vos petits clins d'œil là. Quand je dis je suis bleu marine, je parle de fringues. Hein. Je vous vois avec vos petits clins d'œil appuyés là. Ah, tu es bleu marine. Ouais. Je vous vois, hein. Comme par hasard. Ouais. Exactement, Eric Durand, ce bleu là, ouais. Bon les amis, merci d'être aussi nombreux, vous êtes cool, content de vous retrouver. Donc c'est pas la matinée Étienne, c'est l'après-midi Étienne. Précision, l'Académie française préfère qu'on dise un après-midi, merci Ganakin, plutôt que une après-midi. Bon, la dernière fois, du coup j'avais dit l'après-midi Étienne. Bah, Étienne c'est moins joli, et puis surtout je m'appelle pas Samuel Étienne, je m'appelle Samuel Étienne. Et vous avez été nombreux à me dire « Ah, mais Samuel Etienne, on peut dire une après-midi. » Et c'est vrai que les deux se disent. C'est juste que l'Académie française préfère un après-midi. Et à un moment, je me suis dit « Pardon, désolé pour les mots, mais bon, hein, on fait ce qu'on veut, quoi. » Tu vois, hein, je suis un fou, moi. Et donc, du coup, let's go pour l'après-midi, Etienne. J'ai écouté la commu. Ouais, je suis très gang shit, ouais. Salut chat, mais non, c'est bien aussi sur TikTok. Ok, bon, je vous fais un sommaire. Allez, 34 minutes, let's go. Alors, on a fait le bonjour, on passe au sommaire. Et on est à 34 minutes ? On est à 34 minutes. Merci. Merci JB Le Fog. Espèce de goutte. Hop, donc sur TikTok, vous avez vu, il y a un sommaire aussi dans les deux cas. Hein. C'est-à-dire que le sommaire, il sert à savoir où on en est. Voilà. Et donc, on va changer. Bah, la petite tâche, c'est déjà sur sommaire. Voilà. Donc là, le sommaire, je vais vous dire vite fait de quoi on parle. Voilà. Nunchoin, tiens, Samuel, on regarde pas le chat. Si, mais que les questions intelligentes. Désolé, Nunchoin. Excuse-moi. Ok, c'est parti. Alors. Le sommaire, de quoi je vais vous parler? Pssht, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la tempête, là, la tempête qui souffle sur la France. Voilà, peut-être que certains sont déjà concernés. Moi, j'ai un seul message à vous faire passer là-dessus. Prudent, soyez super prudent dans vos déplacements. Voilà, il y a tout ça. À chaque fois, il y a des accidents, des gens qui... t'as pas de tempête Benjamin. C'est ça. Et en fait, voilà, si vous avez à vous déplacer en voiture ou autre, voilà, juste soyez prudent. Hein, pas avoir un accident. Voilà. OK ? Donc, attention, ça va encore souffler. Voilà. Avertissement, notamment ici du Parisien. On parlera des jeunes en France qui se sentent déclassés. Merci J.B. Le Foc pour ces 5 abonnements offerts à la commune. Les jeunes qui se sentent déclassés, les jeunes en France qui se sentent... Il y a un malaise, notamment par rapport au travail. Avoir un travail qui ne correspond pas à ses qualifications, puisqu'on a des jeunes qui sont de plus en plus diplômés, mais qui ne trouvent pas forcément... Merci Xiris. Des métiers en rapport avec leurs qualifications. Ça nourrit un malaise, notamment chez les plus jeunes, selon une étude de France Stratégie, mais ça n'est pas que ça. Il y a aussi le malaise du logement, etc. Quoi. Donc on en parlera, on prendra un petit peu le temps, vous me direz ce que vous en pensez. Une initiative de la haute commissaire à l'enfance, c'est un guide d'aide à la parentalité qui vient de sortir. Voilà. Et alors, pour les parents, il y a des parents qui diront « Ah, mais dans ce guide, il n'y a que des choses évidentes, je connais. C'est vraiment les bases de ce dont a besoin un enfant, notamment un nouveau-né. » Bah, en vrai, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Avec ce message, notamment, il faut savoir bâtir une coalition bienveillante autour de l'enfant. C'est plutôt des belles choses. Je vais vite, hein, c'est le sommaire. Merci, JG Lors, c'est gentil. Voilà. Quelqu'un me disait, mais est-ce que tu as parlé du Louvre ? Alors oui, on en parle depuis lundi, on en a parlé lundi, on en a parlé mardi, on en parle également aujourd'hui. Il y a certains éditorialistes, certains journaux, certains médias. Et certains politiques aussi, qui sont en mode « Ah, c'est tellement grave ce qui s'est passé, c'est vraiment le signe de la décadence du pays. » La décadence du pays, Libération dit ce matin « Calmez-vous. » Calmez-vous, décadence, décadence. Voilà, donc on lira ça. Case du Louvre. Et si on se calmait. On parlera de l'Espagne et de l'Italie ce matin. L'Espagne qui stimule. Attends, je débranche et je rebranche ma tablette. Parce qu'il y a un petit court-circuit électrique. Ça grésille. Stimuler et simuler, ça n'est pas la même chose. Il y a même un monde où stimuler et simuler, c'est littéralement l'inverse. Je ne dis pas de bêtises. Donc, ça n'est pas simuler, c'est stimuler. Ça n'est pas la même chose. Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, entre simuler et stimuler, c'est ou que vous êtes très très jeune, ou que vous n'avez pas bien bossé le sujet. D'accord. Donc là, c'est l'Espagne qui stimule sa prospérité grâce à l'immigration. On ira aussi en Italie avec... un projet en Italie de taxer davantage les locations de courte durée, les locations touristiques, tout ce qui est autour d'Airbnb. Airbnb formidable pour partir au week-end, en vacances, sauf que ça enlève, vous savez, du marché locatif des logements qui du coup ne sont pas proposés aux locations longues, et ça rend plus compliqué, difficile encore le logement pour des gens dans plein de pays, en France vous le savez, mais aussi en Italie. Donc ils veulent augmenter les impôts sur ces locations type Airbnb. Et vous savez quoi ? Je suis plutôt OK avec ça. On en reparlera. Alors, ça c'est un dossier qu'on n'a pas lu ce matin. Ce matin, on a lu des trucs, mais pas ça. Hein ? Souvent, quand on parle de la dette de la France, la dette publique gigantesque, 3300 milliards d'euros à peu près, c'est ça ? Une charge de la dette qui ne cesse d'augmenter, les taux d'intérêt. Eh bien, il y a toujours quelqu'un dans le chat qui dit « Mais cette dette dont on parle tout le temps là, elle est à qui ? À qui on doit de l'argent ? Ben, mais c'est qui cette Samia dont vous parlez tous, là ? Attendez, il y a une Samia qui a un succès fou dans le chat, là. Elle est où ? Attends. Vous m'excusez, je cherche un... T'es où, Samia ? Tout le monde parle de toi, c'est trop chaud. Je sais pas, moi, je la trouve pas. Ensuite. Samia, tu peux dire un truc pour voir ? Ah, tu la bannes ? Ah zut, elle est partie. Ah, elle a dit une dinguerie, c'est dommage. Oh zut ! Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait une bêtise, non ? En vrai, Lune, oui. N'hésite pas à m'envoyer un message. Peut-être un DM sur X, par exemple. Elle disait des bêtises. Franchement, c'est moche, pas envie de répéter. Ok, d'accord. Donc, cette question, à qui appartient la dette ? Eh ben moi, à chaque fois, je suis un petit peu embêté. Parce qu'en fait, je ne sais pas répondre à cette question. Je réponds souvent par une pirouette en disant, bah, vous en avez peut-être. T'as pas X ? Alors, sur mon... Ah, merde. Parce que sur mon compte X, il y a mon mail pro. Il y a mon mail pro. Bah, je peux te donner comme ça de vive voix, c'est pro.samuel-etienne@gmail.com. pro.samuel-etienne@gmail.com. C'est mon mail pro. Ok. Voilà. Je prends aussi les gros virements. Voilà, ou les messages sympas. Sur Insta, il y a mon mail aussi. Sur Insta, il y a mon mail pro aussi. Et donc voilà, souvent je m'en tire par une pirouette en disant bah, si vous avez un peu d'épargne, si vous avez la chance d'avoir un peu d'épargne, vous avez sûrement de la dette. Voilà, sans le savoir, par vos placements. Mais là, on a un dossier beaucoup plus complet dans l'humanité qui nous dit, ben oui, voilà qui possède la dette, à qui devons-nous de l'argent ? Il y a beaucoup d'infos, il y a quelques interrogations, mais c'est hyper intéressant. Voilà. Et puis, à la fin du live, qui va durer un certain temps, parce que j'ai plein de choses à vous dire ce matin, eh bien, il y a plusieurs articles sur des films. Hein, il y a Kaamelott 2 qui sort, il y a La Petite Dernière qui semble être un film magnifique aussi, il y a beaucoup d'articles. Et puis, il y a un film animé qui sort. J'ai dit ce matin ? Ah oui, parce que la revue de presse, normalement, c'est le matin. Alors, souvent, même à 22h, je peux dire le matin, moi. Parce que la revue de presse, c'est le matin, donc dans ma tête, c'est le matin. Et donc, il y a un film animé qui s'appelle Arco, qui sort, qui est un film français, si je ne dis pas de bêtises. Et manifestement, ce film est magnifique. Le Parisien en parle peut-être comme le plus beau film animé de l'année. Et il y a deux pages dans Libération. Arco qui remue arc-en-ciel et terre. Bah, ça a l'air très, très bien. Donc, on ira voir peut-être la bande-annonce, quoi, le trailer. Voilà. C'est pas mal, hein. Vous en pensez quoi de cette petite revue de presse ? Il y a des trucs, hein. Tu t'es levé à 14h, je me suis levé à 6h au Zoukai. C'est juste que ça veut dire que t'as loupé l'émission MVP de ce matin. Nul au Zoukai, on a été super cette émission. Bon, à 9h, j'étais en live ce matin. Je dois le voir bientôt, il est vraiment bien. Bah, la presse dit qu'il est cool, ouais. Alors je rappelle que tous les... Moi, je voudrais remercier tous les gens qui viennent sur TikTok, notamment, pour parler d'autres choses, pour parler notamment des polémiques de Twitter. Voilà, free machin, moi, je suis pour truc, et puis je suis pas... Voilà. Je voudrais vous dire merci, parce que vous ne participez pas à notre débat sur l'actualité, vous ne participez pas vraiment à notre revue de presse. Mais depuis hier, j'ai activé un truc tout bête. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'avais pas fait attention. Sur Twitch, pour écrire dans le chat, il faut follow. Faut pas être abonné, faut pas forcément payer des sous, mais faut follow la chaîne, faut suivre la chaîne, tu vois. Donc c'est la base, on fait toujours ça. Mais sur TikTok, j'avais pas fait gaffe. Et sur TikTok, n'importe qui pouvait écrire. Alors quand je dis n'importe qui pouvait écrire, mais vraiment n'importe qui, tu vois. Mais vraiment parfois n'importe qui, mais vraiment, tu vois. Et puis j'avais pas fait gaffe à ça. Et je suis allé voir dans la petite roue crantée, la réglage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait, comme sur Twitch, réserver le chat aux gens qui suivaient la chaîne. Pas qui soutenaient ou qui payaient. Juste qui faisaient follow la chaîne, quoi. Tu vois ? J'ai activé ça depuis hier. Donc ça veut dire que tous les gens qui viennent sur le chat TikTok, bah, pour me dire un petit peu le fond de leur pensée, puis parler de la polémique du moment, là, mais vous êtes en train de m'exploser mes stats. Vous êtes en train de me faire un des plus beaux cadeaux de ma rentrée sur les plateformes. Hein ? Vous vous rendez compte qu'après, quand je vais partir en OP, quand on va me proposer des OP, et que je vais donner mes stats TikTok, je vais donner mon nombre de followers, grâce à vous, je vais me vendre beaucoup plus cher. Et merci du fond du cœur. Et merci pour ça. Eh oui. Merci. Comment ça va pouvoir fourrer la dinde à Noël, ça n'a rien à voir. Hein ? Donc voilà, merci. Bon, on reprend la vue de presse. Est-ce qu'il y a des gens ici, en France, qui ont du vent, ont de la tempête à l'heure où on parle ? Il est 17h36. Merci, Tamzarian. Oui, ok. Dites-moi la région. Où est-ce que ça souffle, là ? J'habite à 700 mètres des grues qui sont tombées. J'ai vu, j'ai senti la tornade passer pas loin devant moi, mais pas de dégâts dans mon quartier. Pays de la Loire, ok, ça commence. La Rochelle, ça vient. Il y a une alerte, ouais. Nadia, il y a une alerte au vent et je voudrais vous mettre en garde. Île-de-France, Seine-et-Marne, ça commence à souffler. Ça arrive ici à La Rochelle. Finistère. Région parisienne, il y a un truc ou pas? L'Île-Dieu, ça commence à souffler. Normandie, c'est calme. Cherbourg, pourtant, c'est pas très loin. Cotentin, pas à Toulouse, en Seine-Maritime un petit peu. Dans les Landes, c'est ce soir surtout, ouais. C'est surtout à partir de ce soir. Belgique, c'est demain. Super calme à Paris, léger sur Lyon, Bretagne, calme. Oui, à Bordeaux. Merci Jojo Lastico pour ton message. La Vendée, ça commence à souffler. 23 km/h en Bretagne. Bon, ça va. Pas de tempête jusque. Ok. Demain pour le Jura. Ok. Je sens que mon train demain après-midi va pas rouler très vite, moi. Ok. Je vais bien prendre de la lecture pour si jamais on est coincé dans le train, quoi. Ok. Pourquoi je vous mets en garde? Bah, pour vraiment, littéralement pour vous. Je voudrais vraiment que vous soyez prudent dans vos déplacements dans les heures qui viennent. Et que vous vraiment vous teniez au courant de la météo, quoi. Voilà. Voilà. Et que vous préveniez vos proches aussi, quoi. Ce serait trop con, tu vois, qu'il vous arrive quelque chose dans un déplacement, quoi. C'est le Parisien qui nous alertait ce matin. Attention, ça va encore souffler. La tempête Benjamin, c'est son nom, devrait frapper la France dès mercredi soir avec une intensité inhabituelle. Donc c'est effectivement, ça arrive surtout à partir de ce soir. La France n'en a pas fini avec les intempéries, alors qu'une tornade, quelqu'un parlait de la tornade tout à l'heure, a balayé plusieurs communes du Val d'Oise lundi, faisant au moins un mort. La fin de semaine promet d'être agitée sur une très large partie du pays. En cause, une dépression qui va se former sur le nord de la France. La journée sera très agitée sur tout le pays, avec des pluies parfois soutenues et du vent très fort. On parle surtout de la journée de jeudi. Avec des vents donc forts jusqu'à 100 km/h dans les terres, hein, pas seulement sur les côtes. Voilà. Alors à quoi s'attendre? Probablement une tempête qui, si elle devient réellement une tempête, sera baptisée Benjamin. Et qui va traverser la France avec des vents extrêmement forts. Ça nous vient des îles Britanniques. Donc ça arrive dès ce soir. Hein. Voilà. Ah oui, j'ai pas mis la flèche sur le sommaire. On a commencé à quelle heure? 40, 44 minutes à peu près? Les mecs, vous avez un TC? 44? Je dirais 44. Vous avez un TC, les amis? Voilà. 40, 44? Bon, je mets 44. Ah, je mets 45. Ah, je mets 45. C'est pour les TC, pour ceux qui nous regardent en replay. Ok. Pareil sur TikTok. Je vous mets la flèche. Engueulez-moi quand j'oublie de bouger la flèche. Hop, hop. Tempête. Voilà. Et hop. Donc attention à partir de ce soir, notamment sur la façade atlantique, de la Gironde aux Pyrénées-Atlantiques. Voilà, ce sera le secteur le plus touché, encore plus jeudi matin. Donc, on parle beaucoup de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, 130 km/h. Voilà. L'ampleur du phénomène reste à préciser. Voilà. Ça se trouve, ça va se dégonfler ce truc, hein. Voilà, mais juste être prudent, quoi. Et ensuite, donc, ça va toucher l'ouest ce soir, demain matin, et après, ça devrait se décaler. Plus vers l'est. Donc la Corse, les Alpes, c'est l'est, l'est en sens est du pays, quoi, pas forcément est, Alsace, tout ça, quoi. L'Île-de-France, relativement épargnée. Alors pourquoi on en parle? Parce qu'à cette période de l'année, ben, des tempêtes de cette puissance. Eh bien, c'est assez rare, en fait. Ouais. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est le résultat d'une rencontre entre une masse d'air chaud venant de l'équateur et une masse d'air froid venue du nord. Voilà. Alors, a priori, une vigilance orange, là. C'est ça qu'il faut surveiller. Ouais. des températures qui vont chuter aussi un petit peu. Voilà. Donc il y a des conseils donnés par le Parisien de prudence, s'informer, se protéger, s'équiper, garder le lien, patienter. Voilà. Donc voilà, moi c'est le petit conseil que je voulais vous donner. Salut Sakura, faites attention à vous, voilà, et faites attention à vos proches, et n'hésitez pas à vous informer sur cette éventuelle tempête, notamment si vous devez vous déplacer. Merci et MixGecko de gonfler mes stats, tu régales. Alors bon, parlons de vous si vous êtes jeune, parlons des jeunes de façon générale, je ne me sens pas concerné. Hein, merci beaucoup César Rue pour les stats. C'est les jeunes Français se sentent déclassés. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire déclassé? On va le qualifier. Mais ce que nous disent les stats, c'est que quelque part, ils ont des raisons de le faire. 51 minutes. Voilà. Il y a des raisons objectives, des chiffres qui viennent nourrir, expliquer ce sentiment de déclassement des jeunes en France. Excusez-moi. Hop. J'actualise la petite flèche côté TikTok. Les jeunes se sentent déclassés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vraiment très intéressant. Merci Césarou pour les stats. Avoir un travail qui ne correspond pas à ses qualifications, notamment, il y a ça, nourrit largement le malaise des jeunes, selon une étude de France Stratégie. Est-ce que c'était mieux avant? C'est la question que pose France Stratégie dans une note publiée mardi intitulée « Jeunesse d'hier et d'aujourd'hui, le grand déclassement ». Voilà. Elle éclaire un débat public nourri sur les réseaux sociaux par les plaintes de Nicolas Kippet, vous savez. Merci Elian. Ce trentenaire fictif qui s'agace d'avoir tout à payer, un débat sur fond de conflit générationnel avec la génération précédente, dite des boomers. Hein, trois quarts des Français considèrent que c'était mieux avant. Y compris 67% des jeunes de moins de 35 ans qui estiment que c'était mieux avant. Alors, question posée par le journal Les Échos ici, c'était ce matin. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment eu un déclassement de la jeunesse entre 1975 et aujourd'hui? Pour y répondre, France Stratégie a compilé toute une série de données. Voilà. Le résultat, c'est effectivement des progrès incontestable entre la décennie 1970 et les années 2020. Alors, progrès, c'est-à-dire, on va regarder, des progrès, mais le sentiment d'un déclassement généralisé des jeunes actifs n'est pas juste un sentiment. Donc, des progrès pour la situation des jeunes, mais pourtant un sentiment de déclassement qui n'est pas, qui est fondé. Alors, les progrès, les jeunes d'aujourd'hui sont plus diplômés qu'avant. Voilà. 1-0 pour Job Life. Yes, tenez-moi au courant, putain, je serais trop content. Mieux payé, alors attention, je vais vous donner le chiffre dans un instant. Mieux payé, si on fait une moyenne des salaires en 2020 par rapport à 1970 pour les jeunes, c'est mieux. Mais attendez. On plus de temps libre, hein, parce que le temps de travail a diminué, et accès à des biens et services qui n'existaient pas hier. Voilà. Mais, énorme, précarité de l'emploi. Problématique du rendement des diplômes, on a des super diplômes, mais on n'a pas des jobs qui correspondent. Voilà. Coût du logement, hein. Beaucoup plus compliqué de se loger aujourd'hui qu'avant. Un jeune qui débute dans son premier emploi aujourd'hui en France a un salaire plus de 10% supérieur à celui d'un jeune salarié de 75, avec inflation comprise. Un jeune est mieux payé aujourd'hui, même si tu enlèves l'inflation. Merci César pour les stats. Les jeunes d'aujourd'hui, 25-34 ans, sont nettement plus diplômés que leurs aînés. Hein, plus d'un sur deux diplômés de l'enseignement supérieur, 1 sur 5 seulement en 75. Au tournant des années 80, la proportion de bacheliers dans une génération était inférieure à 30%. Aujourd'hui, on est autour de 80%. Le niveau de diplôme moyen a augmenté, mais le niveau d'emploi, lui, n'a pas suivi. Voilà. Et là, c'est ce que dit France Stratégie, c'est l'une des raisons de ce sentiment de malaise des jeunes aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que les diplômes ont augmenté, mais la valeur professionnelle du diplôme, le job auquel donne accès ce diplôme, s'est dégradée. Un chiffre, un exemple pour vous le démontrer. Dis donc, Goutoulou, t'es pas en train de venir faire ta pub, toi? Allez, ça débarque. Le mec, il vient de faire une pub pour une banque, tranquille. Allez, hop. Ça marche vraiment, ça, ce genre de conneries, là? Alors, un chiffre, vous allez voir. En 2021, 36% des titulaires d'un bac en emploi occupaient un poste d'ouvrier. Voilà. Alors, en 2021, 36% de titulaires du bac en emploi avaient un poste d'ouvrier ou un emploi peu qualifié. Au début des années 80, il n'était que 11%. Voilà. Le rôle du diplôme qui n'aboutit pas à un travail correspondant aux qualifications a un poids important. Hein, ça crée un sentiment de déclassement, quoi. Pourquoi je n'ai pas le job qui correspond à mes études, quoi? Il ne faudrait pas en déduire qu'il faudrait moins qualifier notre société et remonter à l'accès plus large d'il y a 50 ans à l'enseignement supérieur. Mais ça crée un sentiment négatif, quoi. L'accès au logement. Alors, il y a ça. Il y a l'accès à l'emploi. Il y a l'accès au logement aussi. Qui s'est beaucoup dégradé. Et ça aussi, on le mesure. Vous allez voir, le chiffre qui arrive, il est dingue. Pour pouvoir s'offrir un logement similaire, avec le même taux d'effort et le même impôt initial, en 1975, il fallait 10 ans d'effort, hein, contre près de 25 ans aujourd'hui. Quant au système social, donc ce sentiment que l'accès au logement est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, ça n'est pas un sentiment, c'est une réalité qui se mesure. Quant au système social, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la protection sociale n'est pas plus généreuse aujourd'hui qu'hier pour les plus âgés. C'est juste que les plus âgés sont plus nombreux. Donc le coût de la, j'aime pas ce mot, mais de la charge sociale des plus âgés est plus important. Voilà, mais ça, c'est un problème de pyramide des âges. Voilà. Une autre étude récente de France Stratégie montrait que seulement 20% des Français interrogés seraient plus heureux en 2035 qu'aujourd'hui. Mais chez les 18-24 ans, cette part atteint 56%. Et si c'était mieux demain, s'interroge France Stratégie. Voilà, c'est intéressant, hein. J'ai fait 5 ans d'études sur un sujet, j'ai un autre diplôme national, me dit Romy, mais je sais que l'année prochaine, en sortant d'études, je vais être au chômage. Salut Tatiana Redon. Joli nom. Je vous lis. C'est abusé pour le logement. Moi, je viens d'Aix-en-Provence, c'est vrai que c'est tendu à Aix. C'est pas 25 ans, c'est 50 ans d'effort. Voilà. Je confirme, sur mes 5 premières années de travail comme ingénieur sur Paris, ma capacité d'emprunt a diminué, me dit Osmeilou. Bon, César, t'as abusé, là, t'as fait chier tout le monde. Je te dis à demain, reviens demain. Voilà, tu peux pas monopoliser le chat tout seul. Ah, c'est intéressant. Fluxulf nous dit, sur ce sujet, je recommande le livre L'éloge du carburateur de Matthew B. Crawford. Et c'est très simple à lire, où il raconte son expérience personnelle de son sentiment de déclassement au travers de sa reconversion pro. Fluxulf nous dit que c'est extrêmement inspirant. Kitasugi, je suis tout à fait d'accord avec cet article. Je suis ingénieur chimiste, ça fait un an que je suis au chômage et sur 300 candidatures, je n'ai eu que 2 entretiens. De technicien. Ma seule solution a été de me tourner vers des concours techniciens. Mais c'est fou en vrai. C'est fou, non? Paul me dit, pour te dire Samuel, l'appartement en Alsace que j'ai trouvé, nous étions 80 sur le dossier. Il y a un truc qui est cassé, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Je me permets aussi de soulever un autre problème, me dit Clio. Clio, c'est pas la muse de l'histoire. Et qui nous dit, je me permets aussi de soulever un autre problème, la dévalorisation des métiers. Je suis archiviste de formation et de métier, mais mon métier a totalement perdu sa valeur dans la société. Mon salaire n'est pas à la hauteur d'un bac plus 5, légèrement plus que le SMIC, nous dis-tu, ni la reconnaissance de la profession. Et je ne parle pas de l'état du monde de la culture depuis quelques années, nous dit Clio. Voilà. Bien sûr qu'on aime la tartiflette ici, bien sûr. Excusez-moi, parce que je lis différents messages, donc je passe de la culture à la tartiflette, mais donc, tout le monde sera d'accord, la tartiflette, c'est quand même très important. Bien sûr, je peux te le mettre, le dernier passage, pardon. Tiens, regarde. Vos commentaires sont quand même extrêmement intéressants, parce que c'est une chose de lire des choses dans les journaux, mais quand on voit des gens dans le chat qui le vivent, qui vivent ces choses, qui peuvent témoigner de tout ça, sur l'emploi, sur l'immobilier, ben, je trouve que c'est des illustrations extrêmement importantes, quoi. Oh, j'aime bien la comparaison de Greenlog. J'espère que je prononce bien ton pseudo. Merci, Gervais. C'est comme les rencontres amoureuses. Je dis, hein, quoi? Les entreprises recherchent le meilleur profil et pas juste une personne qui va fit le poste. Hein? Donc tout le monde est insatisfait, à la fois les candidats et les entreprises. Je trouve ça très drôle. Waouh. Je comprends pas la comparaison. Si, c'est drôle. Si, c'est drôle. À méditer, dit Sugar. Bon. Master du côté de Paul, galère limite de finir les fins de mois. Sur les 12 personnes sortant de master avec moi, dit Clark Studio, je suis le seul à travailler dans le domaine que j'ai étudié parce que j'ai créé ma boîte. Waouh. Ah, MMG Force, MMG Force, Force, Force. Quel enfer. Ok, des soifs, faut que je m'hydrate. Vous permettez que je m'hydrate et on va passer au thème suivant. Ah, c'est mignon ça. Il faut bâtir une coalition bienveillante autour de l'enfant. Allez, tiens, je vous mets le sommaire. J'aime beaucoup cet article, enfin cette initiative surtout. Une. 0,2. Ok. Je m'hydrate parce qu'en ce moment, il y a une grosse activité, quoi. Mais du coup, la question à se poser semble surtout, est-ce que les études proposées actuellement sont pertinentes au regard du marché du travail? Je comprends la question. Le journal sur lequel on était avant, c'est Les Échos, et là, on va lire La Croix maintenant. Ami de TikTok, je vous mets la petite flèche. Je vous lis en même temps que je fais mes petites histoires de flèches là. Merci Trougou. J'espère que je prononce bien. Merci pour ton message. Bougez pas. Juste, je m'illustre. Je m'illustre. Il faut que je me, comment on dit, je me cambois de l'eau. Je m'hydrate. Ah. Merci Sub. Merci petite banane. Merci petite banane. Je t'appelle comme ça parce que ton pseudo c'est une banane. Ça se lit Srougout. Srougout. Ok. À la tienne, Étienne. Merci W. 3 millions de chômeurs pour 400 000 emplois. Le problème ne vient pas. Ne vient pas des jeunes, mais de la situation de l'emploi, me dit Ecodas. Je crois qu'Ecodas n'a pas tort. Je crois qu'Ecodas n'a pas tort. Ok. Alors, bon. De temps en temps, une bonne nouvelle dans l'actu, ça n'arrive pas souvent. Je la partage avec vous. Ça vient d'où? Ça vient de la haute commissaire à l'enfance, qu'on a déjà évoquée il y a quelques jours ici, Sarah El Haïry, qui a lancé un truc déjà il y a quelques temps qui est vachement intéressant, qui est de monter les exigences sur la vérification du profil judiciaire de toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants. Voilà. Il y a un mouvement en France, là, ascendant, qui vise à vérifier de plus en plus que toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants doivent montrer patte blanche quant à d'éventuelles condamnations judiciaires antérieures. Voilà. Donc ça existait déjà pour certaines catégories de gens qui travaillent au contact des enfants, et on est en train d'augmenter ça avec un truc où on va être de plus en plus en capacité de demander à quelqu'un un espèce de certificat qui intégrera notamment le casier judiciaire pour montrer qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et parfois même, ce sera une obligation directement quand on viendra prendre un poste de montrer ce document. Bon, donc on a déjà parlé de ça. Voilà, et le projet de Sarah El-Haïry, c'est que demain, vraiment tout le monde, y compris les nounous par exemple, parce que là, on est dans le cadre privé, la personne employée par une famille, que même une nounou, au moment où elle signe son contrat de travail, eh bien, elle montre ce document. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis là, c'est autre chose, de la même Sarah El-Haïry, qui annonce, donc dans le journal La Croix, merci Calice, la publication aujourd'hui d'un guide, ça c'est nouveau, d'un guide d'aide à la parentalité baptisé Les Clés de l'Enfant 0-3 ans. Vlachan, la nouveauté en fait, c'est que c'est pour d'autres professions que celles que tu évoques. Hein, c'est ce que je disais, ça existait déjà pour d'autres métiers, agrément, assistante maternelle, enseignant, comme tu le dis, mais maintenant c'est de plus en plus pour d'autres. Voilà. Donc, un guide d'aide à la parentalité baptisé Les Clés de l'Enfant 0-3 ans. Le Haut Commissaire à l'Enfance publie cette semaine le guide Les Clés de l'Enfance 0-3 ans. De quoi s'agit-il ? Demande La Croix. Et elle répond : il s'agit d'un guide destiné aux parents de jeunes enfants, mais aussi à leur entourage. Il sera prochainement disponible en version papier chez différents professionnels de santé, dans les PMI, les établissements scolaires, en version numérique sur le site internet du ministère de la Famille. La nouveauté, c'est que ce guide sera en open source. En open source, et pourra également être distribué par des partenaires, des entreprises, des associations qui s'engagent à le diffuser à leurs propres collaborateurs ou leurs bénévoles. L'avantage de ce mode de distribution, c'est qu'il permet de toucher les parents, les grands-parents, le conjoint d'une famille recomposée. L'objectif de ce livret, c'est quoi ? C'est d'apporter des informations validées scientifiquement sur les besoins de l'enfant à un maximum de personnes pour bâtir une sorte de, je trouve que cette phrase est magnifique, de coalition bienveillante autour de lui. Un proverbe dit, j'aime beaucoup ce proverbe, qu'il faut tout un village pour élever un enfant, pas seulement des parents, mais finalement beaucoup dans l'entourage et toute une société. Hein ? Ce n'est pas juste une formule, dit-elle, à une époque où on trouve toutes sortes de contenus sur les réseaux sociaux. Il y a Bandini qui dit « Acheter Sophie la girafe à mon neveu a suffi à le rendre heureux pour 6 mois. » À l'heure où on trouve toutes sortes de contenus sur les réseaux, il nous a semblé important de proposer des informations fiables et des conseils pratiques pour accompagner les parents, ainsi qu'une cartographie des ressources, les lignes téléphoniques, les sites de santé publique, les associations, les applications de soutien à la parentalité. Il y a Noé qui me dit « Je vais mettre ça dans ma salle d'attente parce que certains parents sont tellement négligents. » Voilà. Est-ce que accompagner les jeunes parents est une urgence, demande le journal La Croix à Sarah El-Haïry. Oui, on le voit avec les réseaux, les parents se posent beaucoup de questions. Ils sont près de 70% à dire qu'ils ont besoin d'aide, notamment en matière de numérique, toute classe sociale confondue. Être parent aujourd'hui est de plus en plus dur parce que les injonctions sociétales sont de plus en plus fortes et parfois même contradictoires, estime-t-elle. D'un côté, on dit par exemple qu'il ne faut pas exposer les enfants aux écrans avant 3 ans, mais lorsqu'ils sont dans un lieu public ou que leur enfant fait du bruit, on les regarde de travers, quoi. De la même façon, on leur demande de travailler, donc on demande aux salariés de travailler comme s'ils n'avaient pas d'enfants et d'être parents comme s'ils n'avaient pas de travail. Hein ? On demande aux salariés de travailler comme s'ils n'avaient pas d'enfants et d'être parents, hein, comme s'ils n'avaient pas de travail. Des injonctions fortes et parfois contradictoires. Ce guide a vocation à apaiser ces tensions en remettant les besoins de l'enfant au cœur du débat, autant dans l'entreprise que dans la société, parce qu'on ne peut plus faire peser la charge des responsabilités sur le seul parent. Quels sont les principaux messages de ce guide pour la parentalité ? Merci Romain, tu régales. Premier message, c'est l'importance de la sécurité affective. Alors, pour certains parents, c'est une évidence, ce qu'on va lire là. Hein, la sécurité affective. Il y a les gens dans le chat qui ont peut-être des enfants et qui vont se dire, bah, PMI, c'est la protection maternelle infantile, je crois. Attends, quelqu'un pose la question. PMI. Protection maternelle infantile, ouais. C'est les structures pour notamment les mamans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, l'importance de la sécurité affective. On sait aujourd'hui qu'un enfant qui n'a pas pu s'attacher à ses parents, et hélas, parfois ça arrive, un enfant qui n'est pas en confiance, qui n'a pas l'impression d'être compris dès son plus jeune âge, compris, un minimum écouté, tu vois, va avoir plus de mal à se développer harmonieusement et à rentrer dans les apprentissages. Ça aura des conséquences notamment sur son apprentissage, des savoirs à l'école, etc. Le deuxième, c'est le besoin d'échanger avec un enfant. Le savoir et savoir-faire, c'est pas pareil. T'as raison, Phoenix. Le besoin d'échanger avec son enfant par le langage et aussi par le sourire. Le jeu est également essentiel. Un enfant a besoin de jouer. Il a besoin d'explorer, d'agir, de bouger pour développer son imaginaire, son vocabulaire, sa motricité. Ce guide aborde également les questions de la sécurité, de la protection contre les enfants. Informations qu'on trouve dans le carnet de santé, mais qui sont suffisamment importantes pour se retrouver aussi dans ce guide. Il y a Cotane qui dit « C'est fou d'être obligé de rappeler ces évidences. » Oui, c'est ce que je vous disais. Pour certains parents, ça va être une évidence, mais après, c'est pas si évident quoi, de le savoir. Il y a des gens à qui on n'a jamais dit ça. Il y a des gens à qui on n'a jamais dit ça. On n'a jamais expliqué ça. Envisagez-vous d'autres dispositifs de soutien à la parentalité? Merci beaucoup, Gohan, pour ton message. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Oui, ça, c'est les prochains projets. Bon, on verra ça, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve ça pas mal. Il y a des gens à qui on n'a jamais dit qu'il fallait aimer ses enfants. Oui, ça va te surprendre, Sagan, mais oui. Je comprends ce que tu veux dire, Couillère. Ouais. Merci, Rollmops. C'est tellement bon les rollmops avec une pomme de terre chaude. Merci pour ton message. Merci pour les podcasts. Voilà, il y a Amlock qui dit « Je suis jeune papa et je trouve ça génial. » C'est bon les rollmops. Vous connaissez les rollmops ? Merci Yenza. Merci TikTok. Alors, non, pas un rollmops, framboise, un rollmops. C'est du poisson, c'est pas du hareng frais, mais saumuré. Comment dire c'est du hareng, non? Le rollmops. Du hareng. Alors fumé, je dirais pas fumé. Je dirais plutôt un peu saumuré. Cuit, mais par l'acide, peut-être pas par le citron, je sais plus. Ah, je dirais pas salé, moi. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de... Certains disent vinaigré. Oui, ça se mange, oui. Voilà, notamment, je pense que ça vient un peu des pays nordiques. Peut-être par le vinaigre. Certains disent que c'est dans du vinaigre. Oui, c'est ça, c'est un côté un peu vinaigré, ouais. Ah, merci, voilà. Gret Blindmoll nous donne la définition du rollmops. Rollmops, 2R, donc R-O-2-L-O-M-O-P-S, rollmops. Mot allemand dérivé de Rollen enroulé et Mops carlin est un filet de hareng mariné, c'est ça que je voulais dire, pendant un minimum de 3 jours dans une sauce contenant de l'eau, du vinaigre blanc, du sel, un peu de sucre, un autre agent adoucissant, de l'oignon, très important, du poivre, de la moutarde, parfois un peu de vin blanc. Voilà, ça se mange froid, et normalement avec une pomme de terre chaude, tiède, et c'est très bon. Ouais. C'était mon surnom quand j'étais plus jeune par mes parents. Ogo, à quel moment tes parents ont décidé de t'appeler Rollmops? Peut-être parce qu'ils aimaient beaucoup, merci Nolan, les Rollmops. Perso, mon surnom c'était Kakamou, me dit Vicky, that girl. Ouais, c'est moins bien, ouais. Peut-être qu'ils aimaient beaucoup les rollmops. Un signe d'amour, quoi. Comment ça, peut-être à cause de l'odeur de l'adolescence? Moi, c'était l'eau. L'ogresse à grosses fesses, on t'appelait l'ogresse à grosses fesses? Mais c'est quoi ces surnoms de l'enfance là? Il n'y a rien qui va là. Ok. Ce stream devient chelou. Ouais, mais c'est ce qu'on aime. Girafette ou cacahuète, c'est mignon ça. Un surnom hilarant. Hilarant, joli. Je connais quelqu'un qui a appelé son enfant le kebab, me dit Florent Signol. Je connais quelqu'un qui a appelé son enfant le kebab. Et après, certains me disent, mais est-ce qu'il faut vraiment expliquer aux parents qu'il faut entourer l'enfant d'amour? Oui. Et je suis désolé, mais moi, président de la République, je voterai une loi, je ferai voter une loi, je proposerai au Parlement de voter une loi qui interdira de donner le surnom le kebab à un enfant. Quoi qu'on marque, le kebab, c'est bon. En vrai, si les parents aiment bien le kebab... Ouais. Tu vois. En vrai, je dis rien, j'appelle ma sœur choucroute. Framboise, tu appelles ta sœur choucroute? Oh non de Dieu. T'appelles ta sœur choucroute? Mais c'est parce qu'elle est alsacienne ou... Waouh. Ok. Waouh. On a mis le doigt sur un truc là. On a mis le doigt sur un truc. Camomille, oh là là, Camille. Un parent a... Attends, moi je redeviens sérieux. Il y a quelqu'un qui travaille dans le secteur médical, qui est peut-être médecin, qui nous parlait tout à l'heure des gens en salle d'attente, là, et qui nous dit un parent a appelé son gosse le pouilleux ce matin au cabinet. Bon là, du coup, là, on a évidemment beaucoup moins envie de rire. Vous voyez, tout à l'heure, quand on disait, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il est nécessaire de rappeler aux gens qu'il faut entourer les enfants d'amour? Et on a quelqu'un dans le chat qui, à mon avis, est médecin, qui nous dit que ce matin, il a entendu dans la salle d'attente un parent appeler son enfant le pouilleux. Voilà. Alors moi, ça ne me fait pas rire du tout. Parce que, franchement, en fait, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Voilà. Le pouilleux? Mais sérieux, quoi? Je vais vous lire un passage de l'article qu'on vient de lire, là. Quand même dingue, quand même. Vous voyez comme quoi ce livret, en fait, il est nécessaire. Putain, il y aura des gens. C'est pas possible. Putain, c'est pas fou. Quand même, c'est quand même fou. Je vous lis un article, un extrait de l'article. Le premier message, c'est l'importance de la sécurité affective. On sait aujourd'hui qu'un enfant qui n'a pas pu s'attacher à ses parents, qui n'est pas en confiance, qui n'a pas l'impression d'être compris dans son plus jeune âge, va avoir du mal à se développer harmonieusement. Voilà. La sécurité affective, à quel moment, quand tu appelles ton enfant le pouilleux, à quel moment tu es dans la création d'une sécurité affective pour ton enfant, quoi. J'en ai fait sauter la tablette. J'en ai fait sauter la tablette. Mais vous voyez, ça va pas. Alors certains vont dire dans le chat... Alors nous, on nous dit « je suis dentiste », on lui a dit de se calmer parce que c'était fait devant tout le monde. Mais... Et ce qui est encore plus grave, c'est que le parent le fait en public et je n'ose pas imaginer comment cet enfant est appelé, slash, voire traité à la maison, quoi. Merci Vanessa. Hein? Pauvre, pauvre enfant. Je suis content parce que je ne vois pas dans le chat de gens qui disent « Ah, mais c'est rien, c'est pas grave. » Je suis content parce que je ne vois pas ça. Parce qu'en fait, c'est le signe d'un enfant qui va être en carence affective, en fait. Quelqu'un posait la question tout à l'heure dans le chat, mais à quel moment aujourd'hui, en 2025, il faut rappeler aux parents qu'il faut donner un minimum d'amour aux enfants? Bah, hein, démonstration, là. Petit bonhomme, va. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord avec ça, et c'est bien cool. Bon. Le Louvre. Merci de racheter pour le raid. Bah, je vais enlever mon suite. Non pas parce que je vous fais un striptease, mais parce que j'ai chaud. Et on parle du Louvre. Et si on se calmait, dit Libération. Je me suis mis à côté. Nikita, force Nikita. J'ai un message de Nikita. Nikita Kushina qui dit dans le chat. J'ai eu des noms horribles quand j'étais ado. Je peux même pas vous le lire en fait parce que c'est d'une violence de mes parents. Voilà. Résultat, séance de psy pour comprendre pourquoi j'arrive pas à me mettre en couple, j'ai 35 ans. Voilà. Ouais, bah force à toi. Alors, qu'est-ce qui se passe le Louvre ? Bon, lundi, on en a parlé hein, du casse du Louvre. On a essayé de comprendre comment ça s'est passé. Mardi, on a essayé de s'interroger sur la valeur des bijoux qui avaient été volés, de s'interroger sur la perte même pour le patrimoine historique, et essayer d'imaginer quelles étaient les filières qui pouvaient éventuellement... que pouvaient emprunter ces bijoux pour être revendus à qui, etc. On se pose beaucoup de questions. Et puis, il y a aussi... Des médias, des responsables politiques qui en ont fait un petit peu des caisses en mode oh, c'est gravissime, c'est bien le signe d'un déclassement de notre pays et qu'on dit des trucs un peu étranges. Et il y a un journaliste dans Libé ce matin qui s'appelle Thomas Legrand, c'était ce matin, je dis pas qu'on est le matin, c'est ce matin, la presse de ce matin, qui dit mais vous voulez pas vous calmer un petit peu, voilà. Et on va lire cet article, je le trouve assez intéressant. Le casse du Louvre est devenu, écrit Thomas Legrand, dans le débat public, une catastrophe française, la faute d'un pays perdu, le symptôme de toutes nos faiblesses et nos renoncements. Une sorte de délire hystérique d'autoflagellation nationale s'est emparée des plateaux de télé, peuplés de polémistes toutologues, ceux qui savent tout sur tout, hein, qui viennent de se découvrir une nouvelle qualification d'archéo-joaillier. Ils se complaisent dans une surenchère de la déploration nationale en créant des parallèles, des causes profondes, toutes plus farfelues et abusives les unes que les autres. Comme toujours, l'acmé du recyclage et de la moindre information en élément de notre décadence est produite par la bolosphère, hein, l'empire médiatique de Bolloré, et ses piliers de barre. Ainsi, l'inénarrable Rachel Kahn, toujours au bord de larmes, censée prouver sa sincérité tripale, peut dire ceci. Donc voilà ce que Rachel Kahn a dit hier sur CNews. Il y a un terme qui me frappe dans cette affaire, c'est le terme « valeur inestimable ». Ça me fait penser, dit donc cette personne, à lorsqu'on a assassiné deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard. On a en France tué deux professeurs, on est dans cette guerre contre la transmission et contre nos valeurs et on dérobe nos bijoux. À quel moment on crée un lien entre l'assassinat dans le cas de deux actes terroristes de deux enseignants et le vol de diamants? Il y a Moulouf qui dit « j'ai pas saisi le rapport ». C'est parce qu'il n'y en a pas. Yano qui dit « c'est quoi le rapport ?» Ben, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Attendez, je suis perdu. Mais oui, mais tout le monde est perdu. Voilà. On est dans cette guerre contre la transmission et contre nos valeurs et on dérobe nos bijoux. Voilà. C'est un raccourci, mais Mario Kart, quoi. Tu passes vraiment d'une map à une autre, quoi. Ou comment trouver un lien avec l'islamisme? Rachel Kahn glisse quand même sur le plateau de CNews, s'apercevant de l'insondable bêtise de cette corrélation, un timide, ma comparaison est peut-être stratosphérique. Oui. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Voilà. On ne saurait mieux dire. Un autre, alors ce matin, j'ai lu cet article déjà, et je ne savais pas qui était Jean-Philippe Tanguy, et vous m'avez expliqué, Jean-Philippe Tanguy, c'est le porte-parole du RN. Voilà. Il écume les plateaux de télé, alors moi je ne peux pas le savoir, je ne regarde pas la télévision, pour tout noircir, tout mélanger, tout confondre sur absolument tous les sujets à toute heure du jour et de la nuit, toute l'année. Voilà. Et il dit ceci, tous les jours on pille nos églises, maintenant le Louvre. Alors, Libération ne dit pas qu'on pille pas les églises. Hein, les églises en France sont assez... sont régulièrement visités par des gens qui pillent les troncs, qui piquent l'argent des troncs, qui piquent des trucs. Quoi. Donc Libération ne conteste pas ça, mais Libération s'interroge, c'est quoi le lien entre le fait de piller les églises et de piller le Louvre ? Les autres chaînes n'ayant pas assez d'infos pour occuper les heures d'antenne qu'il faut consacrer à l'affaire, commentent et font réagir. Et pour se distinguer, chaque intervenant, porte-parole de chaque parti, de chaque syndicat, porte-parole de lui-même, pousse son agenda à lui en inventant des causes évidentes. À gauche, c'est le budget de la culture qui serait en cause. À droite, c'est tout, c'est l'insécurité, c'est le délitement du pays dans tous ses aspects. Voilà. Le vol de nos bijoux essaye de nous faire croire, ces gens qui interviennent, hein, ils ne sont pas très nombreux, mais ils le disent quand même. Le vol de nos bijoux serait symptomatique de nos renoncements. Et d'ailleurs, nous dit l'extrême droite, dans une diatribe pétainiste et culpabilisante, rejointe par une droite qui ne veut pas disparaître, il est temps d'expier nos fautes. Chaque événement de l'actualité nationale, singulièrement quand il s'agit d'un fait divers, devient la goutte d'eau qui fait exploser le baril ou l'étincelle qui fait déborder le vase d'une France au bord du gouffre, du précipice, de l'abîme, de la guerre civile, de l'invasion. Quand vous lisez certains médias, quand vous écoutez certains médias, quand vous écoutez certains politiques, la France est depuis très longtemps au bord du gouffre, du précipice, de l'abîme, de la guerre civile, de l'avion, et chaque fait divers vient confirmer cela. Voilà. Ces forces politiques qui ne cherchent plus à trouver des réponses aux différents aspects de toutes les crises que nous vivons en France, confiance économique, sociale, environnement, identitaire, préfèrent surjouer l'effondrement, le chaos, voilà. Voilà. Ne m'aime pas, tu as... Il y a quelqu'un qui s'appelle Ne m'aime pas dans le chat, tu as compris que ton message que tu copie-colles dans le chat n'a rien à voir avec une discussion. On n'a même pas appelé les autres à faire comme lui, mais en fait, personne ne comprend ton message, il n'a aucun lien avec le thème, en fait. Personne ne va copie-coller ton message, en fait. Arrête, tu te fatigues. Laisse ton clavier tranquille. Merci, ne m'aime pas. Merci à toi. La personne me dit, ok, désolé. Vous voyez, c'est cool, hein. Comme quoi, le dialogue. La technique est ancienne et éprouvée, elle est documentée par les historiens des années 30. L'alliance de ceux qui prônent le retour à un ordre mythifié, l'extrême droite, de ceux qui veulent surtout que le monde tel qu'il est économiquement et socialement ordonné ne change pas. Les dominants économiques se fait tout naturellement avec un objectif, la solution autoritaire. Voilà. Donc Libé dit arrêtez avec le Louvre. Hein. Ok, c'est grave, c'est dommage, c'est très triste que ces bijoux aient été volés, mais ça n'est pas forcément le signe du déclassement de la France, de l'abîme dans lequel la France va être engloutie. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Comme le dit Tom 56 avec beaucoup d'humour, ce matin j'ai fait tomber mon café et ça c'est le signe du délitement de la France. Voilà, c'est exactement ça, t'as raison. T'as vraiment fait tomber ton café par contre ? Parce que ça en vrai c'est grave. Salut MW. Ah oui, c'est vrai que par contre, il y a pas mal de cambriolages dans les musées, ouais. Le pire, c'est de renverser son café sur son bureau, genre sur sa table de mixage. Je ne sais pas de quoi tu parles et de qui tu parles, Sugar. Je vois pas du tout à qui tu fais allusion. Oui, c'est le même Thomas, ouais. Ultra, je crois que c'est le même, je crois. Alors, maintenant, je vous emmène en Europe. Je vous emmène en Italie, je vous emmène en Espagne. MW, c'est tous les jours, ce stream. Alors, normalement, c'est le matin, c'est 9h midi, c'est 10h-13h. Mais ce matin, j'ai fait MVP, mon émission MVP sur Twitch, qui est une émission que j'adore. Et je n'ai pas pu faire la revue de presse, donc je vous la fais l'après-midi. Mais normalement, c'est 9h midi. Voilà. Sauf à partir de ce vendredi, où je prends quelques jours de vacances. Alors, 1h29, let's go. Je vous emmène en Espagne et je vous emmène en Italie. Hop. Ah non, il y a Trump d'abord. Ah mais j'ai oublié, mais je voulais pas coller l'article sur Trump. Non, et j'ai oublié un article hein. Avant l'Espagne, il y a Trump. Eh oui. Venezuela, voilà, il est compliqué ce sujet, mais je vous l'ai mis de côté quand même parce que je veux essayer de comprendre. Eh oui, j'ai oublié de vous en parler. Qu'est-ce qu'il y en a quoi, ce truc-là, Venezuela, là ? C'est quoi cette histoire ? Rien compris, moi. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on voyage ? Ah bah oui. C'est dans Libé, page 6. Let's go. Donc, 1h30. Voilà. Quelles sont mes parenthèses ? Voilà. C'est fou ça que ce matin j'ai oublié. En fait, je n'ai pas capturé l'article ce matin en me levant. Je ne suis pas réveillé.
Heureusement,
je veille. Alors, TikTok, je vous mets la même chose. Les beaux gosses. Si j'arrive à prendre ma petite flèche. Il n'est pas doué de ses doigts. Hein. Il n'est pas doué de ses doigts. Hein. Voilà. Ok. Let's go. Je comprends plus les horaires de la matinée Étienne. Alors je viens d'expliquer que c'est le matin, mais quand j'arrive pas à vous faire le matin, je la fais l'après-midi. Ça, c'est fini. Vous avez fini de râler, ouais, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Trump et de Venezuela ? Alors moi, pour l'instant, j'ai rien compris. Je vais essayer de comprendre. Face au Venezuela, Trump renoue avec l'impérialisme guerrier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Merci Chevalier Pégase, merci Yanouf, merci Hippo. Hippo. Merci Brunini, merci Xiris. Après le déploiement militaire et les frappes contre les embarcations dans les Caraïbes, Washington fait monter la pression contre Caracas et menace désormais d'intervenir sur le territoire vénézuélien. Quoi ? Les troupes américaines sur le territoire vénézuélien, c'est quoi cette histoire ? Et René, tu as raison, c'est l'histoire de trafiquants. Sauf que d'après Libé, c'est pas si clair. Waouh, Tchernosaurus, joli le retour de la doctrine Monroe. Joli, joli. Depuis des années, Nicolas Maduro crie au loup. Maduro, c'est le président vénézuélien, je crois. Le président vénézuélien, ok, ne cessait d'agiter la menace d'un coup d'État ou d'une intervention militaire ourdie, donc préparée depuis Washington pour le renverser, Maduro, et avec lui la révolution bolivarienne engagée par son prédécesseur Hugo Chavez. C'était là le cœur de la machine anti-impérialiste vénézuélienne nourrie par plusieurs décennies d'intervention de la CIA en Amérique latine. Ça, on s'en souvient. Guatemala 54, Brésil 64, Chili 73, et s'acharner sur des figures jugées trop proches de l'ancien rival communiste Fidel Castro, Che Guevara, les leaders du front sandiniste. Sarah, bisous. À l'aube du XXIe siècle, la menace semblait souvent largement exagérée, hein, ce que disait Maduro, et visait plus à ragaillardir les militants, l'entièreté du peuple chaviste, les détourner de la dérive autoritaire du président moustachu, en les appelant à se tenir prêts à résister face à l'envahisseur. Jusqu'à cet été, il y a eu du nouveau, certains me parlent de pétrole vénézuélien, c'est intéressant, où elle est soudainement redevenue brutalement concrète. Merci Loli. J'ai l'impression dans le chat, il y en a qui maîtrisent beaucoup plus ce sujet que moi. Vous êtes assez impressionnants en vrai. Ça fait plaisir. Le 14 août, donc ça s'est passé cet été, et moi j'avoue que j'ai pas du tout suivi l'affaire, les États-Unis ont procédé à un important déploiement militaire dans les Caraïbes, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue qui inonde le marché américain. Ok ? Ok. Le Venezuela y est immédiatement vu une nouvelle menace, mobiliser un nombre absurde de 4,5 millions de miliciens et enchaîner les annonces de manœuvres militaires pas toujours suivies dans les faits. Ok. Puis à partir du 2 septembre, l'armée américaine a commencé à frapper des embarcations de narcoterroristes sans pour autant jamais fournir aucune preuve qu'il s'agissait bien de trafiquants de drogue. Ok. À ce jour, 7 embarcations ont été détruites à chaque fois au large du Venezuela pour un bilan de 32 morts. Voilà. L'avant-dernière, jeudi, était un sous-marin, selon Trump. Voilà. Trump qui a dit « Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont des sous-marins et qui ne sont pas des trafiquants ?» Oui, il y a des pays qui ont des sous-marins, c'est pas forcément pour le trafic de drogue. Je ne sais pas si c'était la question de Trump ou pas. Salut Raph, bienvenue. Oui, James Cameron. aux États-Unis et ailleurs, la légalité de ces opérations interroge. De nombreux législateurs américains ont décrit ces frappes comme étant des exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire en dehors de décisions de justice. La Maison-Blanche s'est défendue en évoquant une légitime défense, évoquant les 90 000 Américains qui meurent chaque année d'overdose. Trump est allé jusqu'à parler sans fondement de 300 millions De quoi? De 300 000? De 300 000 millions? Non, c'est une blague. Attends, je comprends rien avec Trump. Attends. La Maison-Blanche s'est défendue en évoquant une légitime défense, évoquant les 90 000 Américains qui meurent chaque année d'overdose. Trump est allé jusqu'à parler sans fondement de 300 000 millions de victimes. C'est une blague. Non, je pense que... C'est Libé qui s'est trompé ou c'est Trump qui dit n'importe quoi? 300 000... Parce que même 300 millions, ça va pas. Et là, c'est marqué 300 000 millions. Mais même 300 millions, ça marche pas. Il y a combien d'habitants aux États-Unis? Même 300 millions, ça va pas. Il y a 333 millions d'habitants aux États-Unis. Bon, il n'y a rien qui va. Bon, bref, il n'y a rien qui va. Ok. Bref, bon, passons parce que si on doit comprendre tout, avec Trump, parfois, c'est compliqué. Bref, le 2 octobre, dans une notice au Congrès faisant encore monter la pression, le président américain a déclaré que les États-Unis étaient dans un conflit armé avec les cartels de drogue. Quelqu'un me dit, il avait dit 300 millions, pas 300 000 millions. J'entends bien, mais même 300 millions, ça veut rien dire. Voilà. Donc, que les États-Unis étaient en conflit armé avec des cartels de drogue, désormais considérés comme des organisations terroristes, renouant en quelque sorte avec la guerre contre la terreur qui avait mené Bush en invasion vers l'Irak. Donc, jusqu'ici, je commence à comprendre que dans l'esprit de Trump, il y a un conflit larvé avec le Venezuela parce qu'il y a des trafiquants de drogue. Ok. Ce qui ressemblait au départ à une démonstration de force dans les Caraïbes sonne de plus en plus comme la préparation d'opérations militaires contre le Venezuela. 8 navires de guerre, 7 dans les Caraïbes, 1 dans le golfe du Mexique sont désormais déployés, un sous-marin d'attaque, des chasseurs à réaction F-35B, des avions espions P-8 Poséidon, des drones MQ-9 Reaper, 10 000 hommes stationnés pour l'essentiel à Porto Rico et le Patagone à déployer des forces d'opérations spéciales d'élite, notamment le blablabla, bon bref, il y a du monde. Il y a du monde. Voilà. Et Trump déclare, nous nous tournons désormais vers la terre ferme, car nous maîtrisons parfaitement la mer. Hein? Après que le New York Times a révélé que le CIA avait été autorisé à opérer secrètement sur le territoire vénézuélien. Ok. Car dans le récit que fait la Maison Blanche, Nicolas Maduro est un narcoterroriste à la tête d'un vaste cartel qu'il convient donc d'éliminer. Ok, le président vénézuélien serait un trafiquant de drogue, un immense trafiquant de drogue. Le département de la sécurité intérieure a rehaussé cet été la prime le visant à 50 millions de dollars. Plus que pour le défunt leader d'Al-Qaïda. Rien, alors Libé écrit, rien ne prouve pourtant que le dirigeant vénézuélien, certes de plus en plus autocrate et corrompu, c'est pas un enfant de cœur, soit effectivement à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Une note du renseignement américain datant de janvier, ouvertement niée par Washington, doutait même de ses liens avec le Tren de Aragua, un puissant gang vénézuélien dont l'administration Trump parle tout le temps pour justifier les arrestations de migrants. Donc t'as même une note du renseignement américain qui dit ben non, en fait, le gars, il n'a pas de lien avec ces gars-là, quoi. Bon. D'autre part, plusieurs rapports de la Drug Enforcement Administration, donc l'agence fédérale en charge de la lutte contre le trafic de drogue, affirment que... Attendez, c'est pas fini, c'est le meilleur moment. Affirme que le Venezuela n'est pas un producteur de cocaïne ou de fentanyl, ni même un point de passage très important pour que cette substance transite vers les États-Unis. Attendez. Donc on a Trump qui dit que le président Venezuela, c'est un grand trafiquant de drogue. Il y a l'administration américaine qui dit non, en fait, non, non, il n'y a pas de trafic de drogue au Venezuela, il n'y a pas de trafic de fentanyl. Mais attendez, on parle quand même on parle du même pays, hein, les deux cas, c'est les États-Unis, quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte, du coup, Trump? J'y arrive pas, moi. Parfois, je n'y arrive plus, quoi. Mais qu'importe les faits... Ah, bah oui. Oui, donc là, c'est plus clair. Donc, qu'importe les faits, on oublie. Hein, cette ligne dure contre Caracas est portée par un secrétaire d'État, Marco Rubio, faucon, néoconservateur. Faucon, ça veut dire partisan plutôt de la guerre. Voilà. Ah, clique pas, t'as gagné un historique, mon chouchou. Allez, fais voir. 3 messages, ah, c'est pas bon. Allez. Bah, allez, c'est ton. Allez, t'as le droit à une seconde chance. Hein. Il sentait un peu le caca ton message, mais j'ai pas assez d'historique. Je te garde. Fais un effort pour ton quatrième message. Tu nous fais 10 tours de terrain. Tu nous fais 10 tours de cours, tu respires un petit peu et tu t'essayes d'élever ton niveau de jeu. Pff, Dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une dinguerie dans le chat. Qu'importe les faits, cette ligne dure contre Caracas est portée par le secrétaire d'État Marco Rubio, fils d'immigrés cubains qui a en horreur le régime chaviste et estime que le président vénézuélien est un fugitif à la tête d'une organisation terroriste et d'une organisation du crime organisé qui a pris le contrôle d'un pays. Ok. Il est soutenu par le monsieur immigration de la Maison-Blanche, Stephen Miller, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, qui veut renouer avec le passé sombre de l'agence en allant dans des endroits où personne d'autre ne peut aller, en faisant des choses que personne ne peut faire. Waouh. Signe que ces trois-là ont désormais l'oreille de Trump, ce dernier a récemment ordonné la fin de toutes les discussions et négociations en coulisses avec les autorités vénézuéliennes. Incroyable. Elles étaient portées, ces négociations, par Richard Grenell, émissaire du président, qui négociait directement avec Maduro pour obtenir des libérations de prisonniers américains et tentait d'obtenir des concessions pour permettre à des majors pétrolières américaines de revenir exploiter le sous-sol vénézuélien qui détient les principales réserves connues de la planète. Ah, d'accord. Comme le dit le gringo des barricas, on va faire comme si le Venezuela n'a pas la plus grande réserve de pétrole au monde. Ah bah voilà, ok, ça commence à s'éclaircir. L'éviction de Richard Grenell tenant de l'aile non-interventionniste de la sphère MAGA laisse penser que l'objectif final de cette vaste opération militaire n'est pas que symbolique, il vise réellement à renverser Nicolas Maduro par la force si nécessaire. Ah bah voilà, je commence à comprendre le sujet. Au Venezuela, cette menace à peine voilée a eu pour effet de légitimer le discours complotiste porté depuis des années par le dirigeant vénézuélien, donc paradoxalement ça le renforce. Le peuple est prêt au combat, prêt à la bataille, a-t-il fanfaronné récemment. Levez la main si vous voulez être l'esclave des gringos, si vous voulez la paix, préparez-vous à la mériter. Ok. En parallèle, l'ancien chauffeur de bus en a profité pour multiplier les arrestations contre des militants de droits humains, des opposants notoires, tous accusés d'être des traîtres à la solde de l'ennemi. L'incertitude affecte aussi l'économie déjà fragile du Venezuela, avec une envolée de l'inflation que le pays avait réussi à réduire ces dernières années. Waouh. Elle est folle cette histoire. Oh, puis il y a deux pages. Bon, en tout cas, je commence à comprendre l'histoire. Bon, ça, en tout cas, ça veut dire que dans les prochains jours, si on voit des histoires d'opérations militaires au large du Venezuela, voire sur les côtes du Venezuela, voire à l'intérieur des terres, ou des opérations un peu de la CIA, bon, eh ben on pensera à cet article. Ouais. Ok, c'est intéressant, hein. Bon, bah merci Libé, parce que j'étais pas trop au courant de ça, moi. J'ai pas entendu parler de ça. Bjarn nous dit, est-ce que tu as entendu parler des navigateurs IA? Ça a explosé aujourd'hui. Google a perdu 1000 milliards en un jour. Gros sujet. Ok. Bah on en parlera peut-être demain matin alors. Sam, tu vas refaire de la télé? Non. Et oui.
Qu'est-ce qu'il dit encore lui?
Rien à voir, Marine Tondelier annonce sa candidature à la présidentielle, me dit Mix. En vrai, tout le monde sait qu'il va être élu la prochaine présidentielle 2027, donc bien sûr qu'on va aller voir Kaamelott, bien sûr, Hydrox. Arrête, Sugar. Chut. Merci, Schneegos. Merci, Loli. Merci, Louis Lenoir, 671. Merci, Zira Bellini. Ah, elle est candidate aux primaires, ça n'est pas la même chose. Ah, eh oui, on ne me dit pas tout. Ok.
Qui n'est pas ça prêt?
Ah oui, non, ça c'est dans l'IB. Ok. Le sujet suivant, c'est... Ah, l'Espagne. On ne peut pas prévoir le résultat d'une élection tant qu'elle n'a pas eu lieu et qu'on ne connaît pas le résultat. Fred, t'as pas compris la vanne. C'est une vanne de la commu. Je vais te dire, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer la vanne. Ok, 1,45. Je vais t'expliquer. Pourquoi je dis qu'on connaît tous ici le nom du prochain président ? Je vais t'expliquer, c'est une vanne. Une vanne qui n'est pas drôle, en vrai, mais c'est une vanne, c'est la vanne de la commu, tu les connais. Vous êtes où, les beaux gosses ? Là, putain, je vous ai perdu. OBS. Non, c'est TikTok. Ok. Ok, une. Je vous mets la flèche. Alors, je vous mets la flèche sur l'Espagne. Eh, triple stream aujourd'hui, parce que je vais essayer de faire du gaming ce soir. On va essayer de faire du Battlefield 6. Alors, la blague, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la blague, c'est que je vais me présenter à la présidentielle de 2027. Point d'exclamation 2027 dans le chat, t'as le programme, quoi. Voilà. On va co-construire un programme sur, en live, hein, sur les plateformes, sur Twitch, sur TikTok. On va évoquer tous les sujets, on va essayer de penser les solutions, les lois qui pourraient être bien pour notre pays. On va construire un programme, on va aller chercher les 500 signatures, on va se présenter, on va gagner. On va passer le premier tour, on va gagner le deuxième, on va être élu président de la République. Et après, tout est prévu également. Voilà, c'est tout. Enfin, ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà. Ça n'a rien de foufou. Voilà, entre deux trucs. Entre deux lives, on va faire ça. Donc tu vois, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage. Tu veux dire contrat président de la République ? Ah oui, c'est un projet collectif. Bien sûr. Merci Fred. Oh, tu régales Fred. Imagine, ça se passe vraiment, t'assumes ou pas ? Ah bah oui. Oui, si ça se passe vraiment, j'assume et je sacrifie ma vie professionnelle, personnelle, pour la France, pour le bien de la France. Est-ce qu'on pourra avoir un merch pour la présidentielle ? Très bonne idée. Il y aura moins de live ? Non, on streamera tous les jours. Tous les jours, on fera une grande revue de presse sur l'actualité le matin, depuis l'Elysée, depuis mon petit bureau avec toutes ces dorures, depuis l'Elysée, où vous me donnerez votre avis sur la marche du pays. Je vous écouterai, on discutera. Voilà. Et puis on fera des petits streams de gaming le soir aussi, hein, entre deux crises. Non. Non, non, ça va streamer. Tintintin. Tu streameras la discussion avec Trump ? Oui, bien sûr. Le titre du stream imaginé par Aura Katana, stream avec Trump, on le prank en live. Oh, imaginez, on est en 2027. Imaginez. Tu reçois une notif sur Twitch. Le titre du stream, c'est « Stream avec Trump, on le prank en live ». Hey, Donald, est-ce que tu sais qu'il y a 6 milliards d'Américains, Donald, qui sont morts l'an dernier de la drogue ? Donald, do you know 6 000 milliards d'Américains ? Le lendemain, il reprend l'info, quoi. Ouais. Ça peut être sympa, en vrai. Mais non, c'est 300 000 millions. T'inquiète. Ça pourrait être sympa en vrai. Est-ce que tu mettrais des talonnettes comme Sarko ? Non, je suis tout petit et j'assume. Voilà. Non, t'as pas bien lu le message, Angelo. Et je te le dis, je te jure, va voir le communiqué et relis-le bien. Je te promets. En plus, ton message est super cool. Non, mais il fallait laisser le message, Angelo. Mais non, il n'est pas agressif et tout. Angelo, va voir le communiqué, tu vas voir, c'est pas vrai. Regarde bien. Allez, l'Espagne. Donc, l'Espagne stimule sa prospérité grâce à l'immigration. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une analyse signée Isabelle Piquet, qui est la correspondante à Madrid du journal Le Monde. Voilà. À rebours d'une Europe obsédée par la fermeture, l'Espagne affiche un visage singulier. Son économie tourne à plein régime, 2,6%, je peux vous dire que c'est une croissance dont la France rêve, ça, pour 2025, dopée par une immigration massive venue en grande partie d'Amérique latine. Une vague migratoire assumée, encouragée par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Les chiffres sont éloquents. Depuis 2023, la population espagnole s'est accrue de 1,2 million de personnes portées par l'arrivée d'étrangers. En un an et demi, plus de... Qui m'écrit ? Est-ce que c'est mon amoureuse ? Ah, c'est mon amoureuse. Oh. Vous m'excusez ? Vous m'excusez ? La première dame, exactement. Vivre avec Hélène, c'est avoir l'impression de gagner à l'euro million tous les matins, en fait, en te réveillant. Tu te dis, mais pourquoi, pourquoi elle reste avec, pourquoi elle est avec moi Voilà. Je vous souhaite, vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui vous rend aussi heureux que mon amoureuse me rend heureux. Voilà. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Framboise me dit, j'ai déjà rencontré. Ça, c'est cool. Et vraiment, je vous souhaite le même bonheur. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais j'ai bien de la chance. Voilà. J'ai mon monsieur super aussi, cool. On se souhaite tous du bonheur, me dit Julien. C'est cool, vous êtes cool. Combien d'années de mariage alors, on s'est rencontrés en 2010. Enfin, voilà, en 2010. Donc ça fait 15 ans. Donc on doit être... Ah oui, attends, 2010 c'est notre rencontre. Alors mariage, je fais pas trop gaffe moi. Je suis... Ah bah si, c'est simple. 10 ans, on est mariés depuis 10 ans. Voilà. Mais voilà. T'inquiète. Merci Angelo Hir. T'as vu, t'as relu ou pas? T'as relu, qu'est-ce que t'en penses? C'est marqué dans ton alliance. Ouais, mais c'est écrit tout petit, c'est tout petit, c'est illisible. Non, mais en fait, c'est simple, je calcule, je rajoute un an à mon aîné. Parce que Malo, il a 9 ans et on s'est marié un an avant. Donc c'est comme ça que j'y arrive. Bon, attendez, je reviens à l'immigration en Espagne. Moi, ça va pas du tout. Merci le mec Chill. Merci Major Zibang. Merci Schneckos. Merci Loli. Merci Zira Benili. Merci French Daddy. Merci. Let's go. Alors, on était où? Donc, l'immigration en Espagne. Les chiffres sont éloquents. Voilà, en un an et demi, plus de 800 000 nouveaux venus sont installés dans la péninsule ibérique. Le pays compte désormais un peu plus de 49 millions d'habitants, dont 7 millions d'étrangers, 14,3%. Voilà. Le Maroc reste le premier pays d'origine. Hein, avec plus d'un million de ressortissants, mais les flux latino-américains, c'est ça qui a explosé, ont explosé, plus 74% pour la Colombie depuis 2000, plus 57% pour le Venezuela, plus 60% pour le Pérou. Ces migrants dispensés de visa entrent le plus souvent en Espagne comme touristes et puis s'y installent, c'est aussi simple que ça. Donc cette année, tu fêtes tes 10 ans de mariage et tu le sais pas. Non, c'est déjà passé les 10 ans de mariage. Et on voulait le fêter, mais on s'est pas rendu compte qu'on était déjà à 10 ans, et du coup, on s'est dit, bon, on fêtera les 15 ans. Parce qu'en fait, c'était en mai-juin. Bah, et en fait, on n'a pas fait attention. Le temps passe trop vite. Donc du coup, on voulait fêter ça, puis finalement, on fêtera les 15 ans. J'espère qu'on va se souvenir des 15 ans, sinon ça relance aux 20 ans. Quoi. Ah, c'est, attendez, c'est moi, c'est mon amoureuse. Il y a Hélène qui vient de m'écrire en SMS 10. Parce que je crois qu'elle regarde le live. Bon, j'arrête de parler d'elle parce qu'après elle va être gênée. Ok. Ben, je savais, hein, j'ai fait 9 plus 1. Donc, des migrants aujourd'hui qui viennent essentiellement d'Amérique latine, quoi. Selon une étude publiée en juin par la Banque d'Espagne, l'immigration a contribué pour 0,4 à 0,7 points à la croissance du PIB par habitant entre 2022 et 2024. 0,4, 0,7, ça n'est pas rien. Soit près d'un quart de la hausse totale du niveau de vie. L'agence de notation américaine Standards & Poor's, S&P, qui a relevé en septembre la note souveraine du pays de A à A+. Notre note, nous, elle est dégradée, elle baisse, vous le savez. En Espagne, elle monte. A souligné, donc l'agence, un marché du travail dynamique nourri par une migration ciblée destinée à compenser les pénuries de main-d'œuvre nées après la pandémie. Voilà. Depuis quelques années, la croissance de la population active espagnole a été presque entièrement portée par l'immigration. D'après l'Institut national de la statistique espagnole, entre 2022 et 2023, les étrangers ont représenté près de 80% des nouveaux actifs. En 2024, ils ont entièrement compensé la baisse du nombre de travailleurs espagnols. Voilà. Les étrangers sont surreprésentés dans certains secteurs de la croissance espagnole, 28% de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie, la restauration, 20% dans la construction, mais leur présence dépasse désormais les emplois peu qualifiés. On les trouve aussi en santé, en tech, dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, 90% des nouveaux travailleurs indépendants sont des migrants qui créent leur petite entreprise, quoi. C'est pas la première fois que l'Espagne ouvre grand ses portes, donc ça revient sur les vagues migratoires précédentes en Espagne. Mais là, il y a une volonté politique qui est expliquée par l'article, c'est-à-dire que conscient du vieillissement accéléré du pays, hein, voilà, une population qui vieillit, une population espagnole qui fait moins d'enfants qu'avant, comme d'ailleurs la France, comme plein d'autres pays, la plupart des pays d'ailleurs, le gouvernement socialiste a choisi d'en faire un levier, c'est-à-dire de se servir de l'immigration. Depuis mai 2025, la réforme du règlement sur les étrangers a assoupli la procédure d'arrego, d'enracinement, afin de régulariser progressivement les 500 000 à 700 000 personnes actuellement en situation irrégulière. Vous proposez ça à Marine Le Pen ? C'est arrêt cardiaque direct. Je vous relis la phrase. Hein ? Régularisation progressive des 500 000 à 700 000 personnes actuellement en situation irrégulière. S'il vous plaît, ne proposez ça pas à Marine Le Pen. Si vous croisez Marine Le Pen dans la rue, ne lui dites pas « Marine, est-ce que vous ne voulez pas faire comme en Espagne pour régulariser progressivement les 500 000 à 700 000 personnes ?» Je sais pas combien... Bon, de toute façon, c'est une estimation, parce que par définition, on ne sait pas combien de personnes en situation irrégulière. Voilà. Ne lui proposez pas ça, vous allez lui faire du mal. Ne faites pas ça. Cette voie fondée sur la preuve d'une résidence de 2 ans seulement, contre 5 ans, 2 ans seulement, pardon, offre 5 types d'ancrage, social, socio-professionnel, familial, formation et seconde chance. Voilà. Alors, le Premier ministre espagnol revendique... Merci Angelo. Cette singularité, parce que c'est vrai qu'en Europe, c'est un peu unique ce comportement, il oppose une vision pragmatiste et humaniste au récit sécuritaire dominant en Europe. L'immigration comme richesse et comme réponse à l'hiver démographique. Il rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, c'était les Espagnols qui étaient des migrants. Hein. Oui, t'as raison, Jacques. L'Italie a fait un peu la même chose. En même temps, quand on regarde ce que Meloni a fait, régularisation et visa de travail, tu as raison. Gouvernement Meloni, droite / extrême droite en Italie. C'est vrai. Tu as raison. Une espèce de pragmatisme en disant non, non, mais en fait, on a besoin de l'immigration pour l'économie, quoi. Mais avec un système de... Ouais, alors, côté visa de travail, immigration choisie, mais aussi régularisation. Régularisation, bah, c'est régularisation d'immigration illégale, quoi. Ne dites pas ça à Marine Le Pen, d'ailleurs. Ne dites pas à Marine Le Pen que Meloni en Italie a ouvert les vannes de l'immigration pour son économie. S'il vous plaît, ne dites pas ça à Marine Le Pen, parce que ça va lui faire encore plus de mal que pour l'Espagne. Merci Gali pour les stats. Tu sais que tu me donnes de la force là en venant dans mon chat. Hein. Ça fait monter mes stats. Merci beaucoup. Ne le faites pas. Hein. Les entreprises confrontées à des pénuries de main-d'œuvre dans le tourisme, la construction, les services, soutiennent ouvertement cette approche. Voilà. Mais, parce que c'est bien beau de dire que tout est formidable, etc. Mais le succès a son revers. L'afflux de nouveaux habitants accentue les tensions pour le logement en Espagne. Il en manquerait près de 700 000, selon la Banque d'Espagne. Si l'immigration reste plutôt bien perçue, t'as tout en replay, Marilyn, si tu veux. Elle figurait parmi les principales préoccupations des Espagnols en septembre 2024, l'immigration. Il y a eu des émeutes racistes à Torrepacheco en Murcie, en juillet. Hein, pour contrecarrer le discours de Pedro Sanchez et se distinguer de l'extrême droite de Vox, l'extrême droite espagnole, qui appelle, elle, à l'expulsion de tous ceux venu vivre de l'effort des autres ou imposer une religion bizarre, je cite. Le Parti populaire, donc ça c'est la droite traditionnelle française, le PP, a esquissé en septembre une troisième voie promenant une immigration légale et utile. Le texte souligne le lien spécial qui unit l'Espagne aux nations sœurs de l'Amérique avec lesquelles nous partageons langue, histoire et culture. Quel automode ? Il y a de l'automode ? C'est nouveau ça. Quel automode, Sugar ? Ah, sur TikTok ? Ah oui. Parce que sur Twitch, on n'a pas besoin. Hein. Modération fine et subtile, humaine. Ouais. Donc, c'est intéressant. Voilà. Alors, souvent, pour répondre à plusieurs problèmes qui se posent à notre pays, la croissance, le financement de notre système social, notre système de retraite, on dit que l'une des solutions, c'est l'immigration. Mais que la France, que le pays, la population n'en veut pas, ne veut pas entendre que ça peut être éventuellement une solution. Bon. Ce que semble nous dire cet article, c'est que l'Espagne a choisi, l'Espagne d'aujourd'hui, en tout cas, parce qu'après les majorités politiques, elles peuvent changer, l'Espagne d'aujourd'hui semble avoir fait ce choix. Et ça semble fonctionner. Voilà. Merci Maven Sous-Côté. Bienvenue. Je vous lis. Bonsoir Samuel, j'attends question pour un champion. Bah alors, ce sont les vacances ? Comment te dire ? Quel jour on est ? Mercredi. Oh, putain, je suis désolé, Géo. La direction de France Télévisions, en juin dernier, a décidé que France Télévisions, que question pour un champion, c'était fini. Sauf le week-end. Après 37 ans de présence quotidienne, ben c'est fini, question pour un champion le lundi, et le mardi, et le mercredi, et le jeudi et le vendredi. Voilà. Donc, il semblerait que tu n'aies pas regardé question pour un champion depuis un petit moment quand même, coquinou. Voilà. Ça n'existe plus que le week-end. Voilà. Du coup, je peux passer beaucoup plus de temps sur Twitch. Donc t'inquiète, tout va bien. Voilà. Je vous emmène en Italie ? Ben, moi, on parlait de Meloni. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui a effectivement plutôt ouvert les vannes à l'immigration pour le bien de l'économie italienne. Et Giorgia Meloni qui veut faire autre chose, qui veut taxer plus les loyers type Airbnb, parce que ça a un impact négatif, très négatif, sur la question du logement. Alors, pas seulement en France, pas seulement en Italie, en France aussi, on a lu un papier là-dessus hier. Et ben Meloni, elle tape un peu du poing sur la table, elle dit... Bon, elle veut faire des trucs. Alors on y va, on va en Italie. On est à 2h03. Ça en fait du stream. Hein. Ok. Je vous ai pas mis la flèche. Voilà. Merci Camille, tu régales. TikTok, je vous la mets aussi. La flèche. Pour déconner. Comme ça, vous savez où on en est. La flèche. Ah, la flèche. Donc, qu'est-ce qui se passe en Italie autour du logement ? Merci, French Daddy. Je t'ai déjà remercié, je crois. Qu'est-ce qui se passe en Italie ? Les locations touristiques, donc Airbnb, tout ça, menacé de hausse d'impôts. Rome veut relever la fiscalité des logements destinés aux séjours de courte durée. Meloni doit encore convaincre ses propres alliés. C'est pas fait. C'est un projet. En Italie, la plateforme Airbnb a connu une croissance de 80% en 5 ans. En France, c'est une dinguerie. Hein. On l'a vu hier dans un autre article. La France est le deuxième marché mondial de Airbnb. Voilà. Et ça pose des soucis, notamment parce qu'il y a plein de logements du coup qui ne peuvent pas loger, hein, c'est des logements qui sont retirés du marché, c'est uniquement pour les petits séjours, les vacances, etc. Quoi. Alors, y a plein de villes qui sont touchées en France. Quoi. Deuxième marché mondial, la France. Deuxième marché mondial d'Airbnb. En Italie, la croissance Airbnb a connu une croissance de 80% en 5 ans, atteignait en 2023 7,5 milliards d'euros de transactions. et 600 000 logements disponibles. Vous avez 600 000 logements disponibles. C'est qui le premier? Bah, je dirais les States. Je dirais les States. 600 000 logements disponibles en Italie, c'est pour Airbnb, en tout cas location touristique. Face à l'explosion du phénomène après la pandémie, le gouvernement italien veut relever donc les impôts, la taxe forfaitaire sur les locations de courte durée, qu'elles soient gérées directement par les particuliers ou par des plateformes comme Airbnb. Donc c'est Airbnb et consorts. France, je pense qu'on est facile top 5, me dit Ben Scudé. Non, on est top 2, nous. Top 2, top 2. Top 2. Donc, un impôt à 26% au lieu de 21%. Aujourd'hui, le taux de 21% s'applique au premier logement mis en location, alors que les suivants étaient taxés à 26%. Voilà. La mesure vise à augmenter les recettes de l'État, mais aussi traduire la volonté d'agir pour que les centres historiques des villes restent abordables. Hein. Que les Italiens puissent se loger, notamment dans les villes. Moi, je suis d'accord. En Italie, la plateforme américaine a connu un véritable boom. La pression immobilière est devenue insoutenable dans certaines villes, repoussant familles et jeunes actifs vers la périphérie. Voilà. Les propriétaires privilégient la location touristique qui assure les revenus supérieurs à la disponibilité du bien, tandis que la demande d'habitat stable reste largement insatisfaite. Merci Gaëtan Pison pour ce commentaire sur l'actualité et notamment sur le marché immobilier en Italie. Ton commentaire, c'est blabla. Merci beaucoup pour cette participation et nous attendons avec impatience ton deuxième message. Les propriétaires, qu'est-ce qui se passe? Comme dans d'autres pays, privilégient la location touristique qui assure des revenus supérieurs à la disponibilité du bien, tandis que la demande d'habitat stable reste largement insatisfaite. On attend le deuxième message. Gaëtan Pison, ne te cache pas, nous t'attendons. Je pense que ça va être quelque chose. Jusqu'à présent, la fiscalité était la même. Une location de longue durée imposée à 10% si le loyer est encadré, mais 21% si le montant de la location. Ah! C'est pas une taxe qu'il faut, mais réduire les locks Airbnb. Mais en fait, c'est l'objectif de cette taxe. Plus tu montes, Gaëtan, plus tu montes l'impôt sur un truc, plus tu dissuades les propriétaires de le louer de cette manière. Ou alors, tu peux prendre d'autres mesures. Effectivement, tu peux créer des quotas. C'est juste un outil parmi d'autres. Mais Gaëtan a raison, il y a d'autres solutions possibles. L'interdiction pure et simple, des quotas, X logements et pas plus, des autorisations. Voilà. Mais dis-le plutôt que de dire blabla, bordel. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Non mais... Merci Gaëtan. Introduire un taux de prélèvement à 26% marquerait donc une différence profonde, dit l'article. Merci Gaëtan. Entre les deux cas de figure. Alors moi, vous, je sais pas, mais je trouve que 21-26%... La différence, elle n'est pas folle, quand même. Vous savez ce que j'ai envie de dire, moi, quand j'entends ça, 21-26%? J'ai envie de dire blabla. Moi, je crois que Gaëtan, il a raison, au final. Bah, 21-26%. Gaëtan, en fait, t'avais raison depuis le début. Blabla. Il avait raison. Qui a osé se moquer de Gaëtan tout à l'heure? Qui? Montrez-le-moi. Dénoncez-moi celui qui a osé se montrer de Gaëtan alors qu'il avait, il avait dit les termes depuis le début. Comment ça? Donne-moi les noms. Moi, je dis comme Gaëtan, je dis blabla. Qui? Hein? Qui ça? Qui? Gaëtan, si jamais je suis à Lyon 2027, tu seras Premier ministre. Let's go. Non mais c'est vrai, 21-26% c'est pas... Merci le Big Moom pour cette jolie animation, c'était trop joli en vrai. Merci Larloul. Merci pour ton message, ça me fait vraiment plaisir en plus. Merci pour le troisième mois. Voilà. Alors, donc il y a le taux d'impôt, mais je trouve que c'est pas très, très différent. Voilà. Il y a aussi des collectivités locales en Italie. Je sais que ça existe aussi en France, je crois qu'une ville comme Saint-Malo l'a fait aussi, qui tente d'imposer des limites ou d'augmenter les contraintes pour les propriétaires afin de réduire les locations touristiques au profit des loyers pour les résidents. Voilà. C'est un peu ce que disait Gaëtan tout à l'heure, d'ailleurs. Le prochain qui essaye d'attraper la veste de Gaëtan, je peux vous dire que ça va chier. À Florence, depuis mai 2025, Florence est une très jolie ville, très touristique, aucune nouvelle autorisation n'est accordée dans la zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO qui correspond au centre historique. Eh ben, bravo. Voilà. La province autonome de Bolzano, destination phare pour les Dolomites, a elle aussi adopté des restrictions, mais ces mesures ont été contestées par le gouvernement devant le tribunal administratif au motif que les collectivités n'auraient pas compétence pour intervenir. Alors, candidature pour la primaire, gros lardon, d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Mais oui, moi aussi je t'aime, le promeneur noisette qui a écrit blabla dans le chat. Alors, attention, c'est une... De rien, Gaton, merci à toi en vrai. Merci pour ton humour. C'est une proposition du gouvernement de Giorgia Meloni. Mais, il faut que ce soit voté, bien sûr, par le Parlement. L'exécutif, conscient du caractère explosif d'un affrontement direct avec les propriétaires, parce que les propriétaires, eux, ils sont contents de louer... aux touristes, ah là là, parce qu'ils louent, ça loue cher. Conscient du caractère exclusif d'un affrontement direct avec les propriétaires dans un pays où plus de 70% des ménages possèdent leur logement, hein, a choisi la voie fiscale plutôt que celle de quotas ou d'interdiction. Mais la proposition d'augmenter l'impôt reste fragile. Deux partis de la majorité, la Ligue et Forza Italia, s'y opportent ouvertement en défendant leur électorat de classe moyenne qui complète ses revenus grâce aux locations touristiques. Ils ont d'ores et déjà annoncé leur intention d'amender le projet lors du débat budgétaire des prochaines semaines. Meloni avait déjà tenté d'augmenter la fiscalité des locations touristiques il y a 2 ans avant de reculer sous la pression du Parlement des associations de propriétaires. Bon, voilà. Si on m'avait dit un jour que je saluerais un projet de Giorgia Meloni, eh ben je le fais. Oh, il me reste une part de quiche aux épinards, Oh là, c'est trop bon ça. C'est bon ça, la quiche aux épinards. Allez. Oh, en v'là un gros dossier. C'est qui possède la dette? Alors ça, c'est important. Là, on va apprendre des trucs. Et moi, le premier. Alors là, ça c'est intéressant parce que je pense que ça va aider à répondre à une question que vous êtes très nombreux à me poser régulièrement quand je parle de dette, de l'énorme dette publique de la France. Et vous me dites, et vous avez raison de poser la question, mais attendez, c'est à qui la dette? Elle a qui cette dette? Qui possède la dette? À qui on doit de l'argent, la France? Très bonne question, ça. Eh bien, souvent, je ne sais pas trop quoi... Je réponds des trucs, mais je ne suis pas sûr de ce que je réponds. Eh bien, on va lire l'article de l'Humanité. Il y a Bandini qui dit « Je crois que cette dette appartient à Satan. » Voilà. Sirox, ouais, c'est mon crosshair. Comment ça, tu veux voir ma grosse dette? Ça va pas, non? On s'en fout dans le chat. Oui, c'est ça. Oui, Corgan. Voilà. Donc, dossier dans l'Humanité sur qui possède la dette. Tu réponds quoi d'habitude? Bah, je réponds, ça appartient notamment à des investisseurs institutionnels, à des fonds de pension étrangers, mais aussi aux Français. Les Français, sans le savoir, quand ils ont de l'épargne, ils ont de la dette, sans le savoir, parce que dans leur placement, il y a la dette. Je réponds ça, tu vois. Ah, bah, c'est pas très très précis. Donc, on a un dossier là-dessus. Qui a la dette? Ok. Un fantôme hante le débat public. Celui de la dette française. Depuis plus de 20 ans, il affole les populations, court les plateaux de télé, s'invite dans les discours de nos dirigeants, c'est pas vrai ça? Chaque seconde, la dette augmente de 5000 euros, grondait François Bayrou cet été. Voilà. L'examen à l'Assemblée du budget de son successeur qui prévoit 30 milliards d'économies, donc on parle de monsieur Lecornu. Je fais bien le fantôme? Je fais bien le fantôme? C'est gentil. Se déroule sous l'étroite surveillance des marchés. La récente dégradation de la note française par l'agence S&P de AA- à A+, vient apporter de l'eau au moulin des défenseurs de l'austérité qui disent qu'il faut réduire la dette. Il y a néanmoins un absent de taille dans ce débat. Si la France emprunte, c'est qu'il existe des prêteurs pour acheter sa dette. Et lorsque les taux d'intérêt grimpent, c'est qu'ils font les affaires de certains. Ok. Vous allez voir, ça répond un moment à la question. En 2026, la France va emprunter 310 milliards sur les marchés financiers. Hein ? Concrètement, l'agence France Trésor, l'AFT, sorte de super banquier siégeant à Bercy. Bon, tout ça, j'apprends. Hein. Moi, je ne connais pas tout ça. Ira vendre aux enchères chaque mois des OAT, hein, les obligations assimilables du Trésor, obligations d'État. Comme dans n'importe quelle prêt, ce dernier n'est pas gratuit. L'État va verser plus de 59 milliards d'euros d'intérêts à ses créanciers. C'est la charge de la dette. Voilà. Question, à qui notre pays va-t-il verser cette somme équivalent au double du budget de l'enseignement supérieur? La réponse relève quasiment du secret d'État, ou plus exactement d'un secret entretenu par l'État. Deux commissions d'enquête y sont cassées le nez. Interrogé par les députés en mai 2024, un représentant de cette AFT, Agence France Trésor, fait cette réponse, hein, un petit peu courte. Un titre de dette n'est pas une action, aucune assemblée d'actionnaires ne décide de la politique de la France, c'est la prérogative des élus, non celle des créanciers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce si sûr dans un monde où toute réforme dite structurelle est justifiée par l'impérieuse nécessité de tranquilliser les marchés ? Selon les chiffres de l'AFT, avançons, vous allez voir, on va comprendre. On sait simplement que notre dette est détenue à 9,8% par les compagnies d'assurance françaises. Ok, ça devient précis. Vous avez quasiment 10% de notre dette qui est détenue par les compagnies d'assurance françaises. Ok. 10%, 10,3% par les établissements de crédit français, donc les banques françaises. Ça fait 20%. À plus de 23% par d'autres acteurs, parmi lesquels la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ok. Et à plus de 55% par des non-résidents. C'est qui ces non-résidents ? Merci Larloul. Merci le Big Moom. C'est qui ces non-résidents ? Un terme fourre-tout désignant des investisseurs institutionnels de toute nationalité, je vous en parlais tout à l'heure, gestionnaires d'actifs, fonds de pension ou autres fonds spéculatifs. De toute nationalité. Mais là-dedans, il doit y avoir aussi des épargnants français. Voilà. En 2016, les députés avaient déjà cuisiné les représentants du Trésor pour savoir à qui était la dette, quoi. Et les gens qui répondaient pas disaient aux députés, écoutez les gars, les incessants changements de propriétaires de notre dette les rend impossibles à pister, parce que la dette, à un moment il y a un gars qui en prend, mais il peut revendre cette dette, quoi. Une fois que la dette est émise par l'AFT, elle est échangée sur le marché secondaire, un peu comme le marché de l'occasion pour les voitures, où les volumes de transactions atteignent des niveaux colossaux. L'argument a à moitié convaincu les députés qui notent que les États-Unis publient régulièrement des statistiques, certes incomplètes, sur les détenteurs de leurs dettes. Deuxième justification, la loi française interdit tout simplement à l'État de connaître l'identité de ses créanciers. La loi française interdit à l'État de connaître l'identité de ses créanciers. Pourquoi ? C'est un article du Code de commerce qui autorise... Hop, c'est un peu plus loin l'explication, c'est vachement intéressant. Pourquoi briser le secret entourant nos créanciers risquerait de les faire fuir, car ce serait révéler à leurs concurrents leur stratégie d'investissement. Ceux qui achètent la dette française ne veulent pas que ça se sache. Voilà. Face aux députés, un banquier avance une deuxième raison. En fait, il faudrait demander aux investisseurs d'où vient l'argent qu'ils placent, et ils n'ont pas nécessairement envie de le dire. Oh ! C'est fou, hein ? La provenance trouble de certains fonds justifierait en particulier l'opacité entourant nos créanciers. Bordel, ce dossier est passionnant. Merci Zérod. Il y a Bandini qui dit « Ce serait plus simple si notre dette était détenue à 100% par Nagui. » En vrai, elle est bonne. Faute d'informations exhaustives, nous voilà réduits à guetter la publication occasionnelle de noms. Donc, par exemple, l'Humanité dit « On sait de sources sûres que BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète, est l'un de nos créanciers. Hein, 32 milliards d'euros de dette française en 2018. Voilà. Le géant américain est le sixième plus gros actionnaire du CAC 40, par ailleurs. Côté français, certains noms circulent comme AXA, Amundi, concurrent de BlackRock, Société Générale. La relative proximité du pouvoir avec les investisseurs tricolores, donc les banques, les assureurs français, peut aider en situation de crise, c'est-à-dire lorsque les taux grimpent en cas de ralentissement économique ou dissolution intempestive, comme ce fut le cas en 2024. Voilà. C'est intéressant. Voilà. Sauf que quelqu'un dit, attention, c'est bien beau d'imaginer que la dette détenue par les banques et les sociétés d'assurance françaises nous protège un petit peu. Parce qu'en fait, en cas de... Ouh là là, mon cerveau, il fume là. Je vous ai plusieurs à dire que c'est chaud. Mais c'est vrai que c'est chaud. Mais c'est un peu passionnant quand même. Donc l'idée, c'est que bah, si la dette française est détenue par des banques et des compagnies d'assurance françaises, c'est cool parce qu'on peut se dire qu'en cas de crise, elles ne vont pas revendre cette dette massivement et faire cracher la France parce que c'est des Français. Et bah, dans l'UMA, ils disent bah, attention, il ne faut pas surréévaluer le patriotisme des banques françaises qui défendent d'abord leurs intérêts. Mais c'est encore pire avec, bien sûr, leurs homologues étrangères. Il y a une étude récente d'un institut qui s'appelle Veblen qui montre à quel point la forte exposition de la dette française au marché extérieur accentue les effets produits par la hausse de notre niveau d'endettement sur notre taux d'emprunt. Hein? Au Japon, par exemple, la moitié de la dette est détenue par la banque centrale japonaise. Hein? Ça exerce une pression à la baisse sur les taux japonais parce que la banque centrale japonaise ne va pas s'amuser à vendre de la dette japonaise. A l'inverse, les investisseurs étrangers qui détiennent de la dette française sont plus sensibles au risque de défaut, d'inquiétude, de changement de politique, et à la moindre perspective négative, ils peuvent vendre notre dette, quoi. Voilà. Et ça peut créer une crise. Voilà. Cette dépendance place la France dans une situation de chantage permanent à la hausse des taux. Imaginez que demain, par exemple, BlackRock décrète lors d'un comité d'investissement que la situation française leur fait peur. Eh bien, ils pourraient revendre tous leurs titres. Voilà. Et ça mettrait la pression sur, en gros, notre dette française. Les taux d'intérêt pourraient s'envoler et notre dette encore plus augmenter. Quoi. Il y a Gaëtan Pison qui vient d'écrire « Blabla la dette ». Je te kiffe, Gaëtan. Tu vois. Voilà. Si 30 milliards d'euros de dette étaient ainsi revendus sur le marché, cela peut provoquer un effet d'avalanche qui incitera d'autres créanciers à faire pareil. Vous voyez ? Alors tout à l'heure, on a vu qu'il y avait à peu près 55% de la dette qui était détenue par, comment disait l'UMA ? On va être précis un petit peu. Par des non-résidents. Donc non-résidents, a priori, c'est à l'étranger. Quoi. Mais il y a des Français aussi qui détiennent de la dette, voilà, par leur placement. Voilà. Les investisseurs institutionnels qui, en France, achètent de la dette, agissent pour le compte de leurs clients, c'est-à-dire... Les épargnants, vous, nous, en tout cas, pour ceux qui peuvent épargner. Hein. Il n'est pas faux de dire que tous les déteneurs d'une assurance vie, par exemple en France, voilà, détiennent dans leur portefeuille un morceau de la dette française. Si vous avez une assurance vie, vous avez un peu de dette. Parce que les établissements résidents, ça peut être des Français ? Spizu, c'est la question que je me posais. J'avais un doute là-dessus. Ah, non résident, ça peut être des Français ? Je me disais résident, non résident, quel accord. Les non-résidents, tu vois ? Non-résidents, résidents, résident evil, tu vois ? Tu peux m'éclairer, Spizou ? Tu vois ? Non-résidents. Bon, je continue. Voilà. Donc, voilà, les Français, ils ont aussi une part de la dette. Mais ce raisonnement passe sous silence la concentration du patrimoine, puisque selon l'INSEE, les 20% des ménages les plus aisés en France épargnent plus du quart de leurs revenus disponibles. Les plus pauvres ne peuvent rien mettre de côté, c'est une évidence. Les plus riches détiennent donc beaucoup plus de AT que les autres. Bon, on enfonce une porte ouverte, quoi. Donc, du coup, les économistes, on va dire de gauche, dénoncent le fait que la rente est profite aux plus riches. Mais bon, là aussi, c'est pas tellement une info, quoi. En réalité, écrit l'UMA, les plus aisés y gagnent deux fois. Les baisses d'impôts accordées aux riches depuis plus de 30 ans contribuent à assécher les finances publiques, à accroître l'endettement de l'État. Et ce sont ces mêmes contribuables qui investissent le plus en dette publique. Ouais, ok. Ok, je comprends la logique du truc. Hein, et il y a un sénateur, un ancien sénateur communiste qui s'appelle Éric Bocquet qui dit, je pense que vous allez comprendre, un choix délibéré a été fait de désarmer fiscalement et budgétairement l'État pour le rendre dépendant des marchés financiers en empruntant. Okay. Le nombre de tranches d'impôts sur le revenu a été drastiquement réduit depuis les années 80, tout comme l'impôt sur les sociétés ou la fiscalité sur le capital. Le problème de la dette n'est pas strictement comptable, il est surtout politique. Bon, le dossier est ardu, est un peu sec, mais voilà, je trouve que c'était important de le lire. Levez la main, ceux qui ont tout compris. Je ne lève pas la main. N'hésitez pas. Hein. C'était un peu... Acarios a compris. Edvisa a compris. Gatant a compris ou pas? Manitas de la Bitas a compris. J'ai pas tout compris, dit Sochi Moshi. Moi non plus, t'inquiète. Ah, Bandini me dit, ça te m'arrangerait que ça tombe pas à l'examen. Moi, je suis arrivé en cours de route, j'ai pas trop suivi. Bah moi, j'ai écouté depuis le début, j'ai pas tout compris non plus. Hein. C'est compliqué, mais c'est très intéressant quand même. Alors, bon, on finit sur du plus léger. Voilà. Bon, ce matin, j'étais en live de un peu avant 9h jusqu'à 13h. Donc, on a streamé 4h30 à peu près ce matin. Là, on a streamé, on va streamer un peu plus de 2h30. Il y a un monde où je relance un stream après. Voilà. Ou alors, voire même, je cut pas. Ah non, je suis obligé de cut pour que la revue de presse parte en podcast audio, pardon. Donc, je serai obligé de cut. Mais on va parler d'un dernier article, c'est les sorties ciné, parce qu'on est mercredi. Voilà, un peu d'info de chill. BF6, ça vous va ce soir? Je vais manger un morceau, mais vite fait, quoi. Pense à dormir et à manger. Dormir, c'est-à-dire... comment ça s'écrit, ça? Dormir. D-A-U-2-R-M-I-I-R. Non, c'est quoi? C'est du néerlandais, non? Quelle heure il est? 2h27. Toi, comment tu l'écris, ça? Dormir. C'est pas un nouveau concept, ça? C'est un nouveau truc, non? Encore un truc de jeune, ça, non? Hop là, Arco. Qu'est-ce que c'est que Arco? Quel est le truc? Hein? C'est... On a deux articles là-dessus, Parisien et Libération. Ce serait, selon Parisien, le plus beau film animé de l'année. Cette histoire d'un jeune voyageur du futur épate par son graphisme et ses thèmes, nous dit le Parisien, il y a un petit coup de cœur. C'est un voyage extraordinaire auquel sont conviés les plus jeunes, toute leur famille, ce mercredi, donc c'est sorti aujourd'hui, avec l'article Darko. Ce long métrage signé Hugo Bienvenue, entièrement fabriqué en France, est le meilleur film animé de l'année, justement gratifié en juin au Festival d'Annecy de la récompense suprême, le cristal du long métrage. Le récit débute dans un futur lointain quand Iris, 10 ans, voit débarquer dans une traînée arc-en-ciel un garçon vêtu d'une curieuse cape, c'est Arco, qui voyage depuis un avenir encore plus éloigné. Égaré par erreur au temps d'Iris, il découvre une terre menacée par des incendies géants, ce qui oblige à vivre sous des cloches de verre. Iris, appuyée par le robot domestique de sa famille, va aider Arco à revenir à son époque. Éblouissant visuellement, porté par un casting vocal 5 étoiles, Arco épate aussi par son propos, c'est un film français, hein, je crois, hein, qui mêle des thématiques très modernes. Climat, IA, rapprochement entre humains et machines, y sont abordés, tout comme l'amitié, l'amour et l'avenir de l'humanité. C'est beau, ça. Donc c'est français. C'est français. Le réalisateur, c'est Hugo Bienvenue, auteur de BD reconnu et populaire, dont c'est le premier long métrage. Vous connaissiez ? L'unanimité de la presse est impressionnante. Ah oui, tout le monde dit que le film est super. Ses aspirations graphiques, cette ligne claire très colorée avec des références à la science-fiction des années 60, le jeune réalisateur le doit à son enfance, à son éducation. Il a vécu en Amérique centrale et au Tchad, a fait une partie de ses études en France aux Gobelins. Les Gobelins, c'est incroyable. Mais aussi à la renommée Cal Arts en périphérie de Los Angeles. Je suis passionné par le travail d'Hayao Miyazaki, les belles refs. Alors les gens y voient des références, notamment au Château dans le ciel. Pourtant, je n'ai pas pensé à son œuvre au cours de la fabrication du film. Hugo, bienvenue. Est très fier que le film soit dessiné de façon artisanale, produit avec des artistes issus, comme lui, des gobelins. Nous n'avons jamais lâché sur le fait que le film soit fabriqué en France. Le long métrage est coproduit, doublé en version anglaise par Nathalie Portman, qui vient de se lancer dans une campagne très offensive pour que cette fiction soit dans la course aux Oscars en mars. Ho 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 ! Hein ? On va aller voir le... On va aller voir le... Le trailer ! Hein ? Les Gobelins, quartier très sympathique de Paris d'ailleurs. On veut la BA, mais bien sûr, on y va. On y va, on y va. Ok, YouTube. Trailer Arco. Enfin, bande annonce parce qu'on veut la version française là, hein, film français. Bande. Bande annonce Arco. Je l'ai.
Tiens, cette machine.
Tiens, c'est du café, c'est une pub pour le café. Ok. Alors, comment je vous mets ça ? Les beaux gosses. YouTube. Ok, là vous avez rien, c'est normal. Là vous avez ça. Vous avez rien là ? Ah oui ! Je vais vous mettre ça là. Voilà. Là vous l'avez. Ok. TikTok. Je vous le mets aussi parce que vous êtes cool. Alors, je vous enlève ça. Et je vous mets ça. Que j'ai fait une connerie ou quoi là ? Et là. Voilà. Ok. Let's go. Let's go. Let's go.
Sérieusement à m'inquiéter.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Aucune idée.
À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où ?
C'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison.
Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas.
Tu crois que ça existe encore, les vœux ? Comme dans les histoires ?
Ok. Bah, trop cool en vrai. Je vais vous lire le message de Multifruit dans le chat. Un instant. Hop, je vous remets tout bien. Ami TikTok. Tac, tac, tac. Qui nous dit. Attends, je voulais remercier d'abord quelqu'un dans le chat un peu plus haut. Je remonte un petit peu. Ouais, Gabriel TV, j'ai vu ton message. Je voulais te remercier. Merci beaucoup. Pendant la BA. Et donc, Multifruit qui nous dit. J'ai vu le film au Festival de Strasbourg. Il est juste génial. Il faut aller le voir et encourager ce genre de film pour enfants. Oh, c'est pas que pour enfants, si ? Ça, alors, je sais pas. C'est vrai que la bande originale a l'air très cool, quoi. Ouais. 294 The Meister. 294. Mais ça peut monter bien plus haut. Pas mon genre, mais chacun ses goûts. Fonbois, t'as pas trop aimé, toi ? Je l'ai vu en avant-première. C'est pas mal, me dit Lub. Ok. Ok. T'as l'air cool en vrai. Ceux qui l'ont vu, je peux emmener des enfants de 9 et 5 ans. Enfin, 5 ans, c'est pas trop petit. Le nom du film, c'est Arco. A-R-C-O. Merci Love the Chill Guys pour la force que tu donnes en venant follow cette chaîne. Merci beaucoup. Ça peut le faire ou pas? Ah, t'inquiète Max, moi je suis en pleine forme. Hein. C'est les autres qui vont se fatiguer. Ouais, vous pensez que je peux le sans problème? Ils préconisent à partir de 7 ans? Ok, d'accord. Ok. Je ne suis pas très animé contemplatif. Ah ok. Mais du coup Miyazaki, framboise, t'aimes pas trop alors? Un retour sur la TV belge, Sam. En fait, je me vois bien travailler la télé belge, moi. Je sais pas, ils sont sympas là-bas. Hein? J'aimerais, je crois que je pourrais. Est-ce que je serai présent à Paris Games Week? Oui. Pas cette, la semaine prochaine, le samedi, 18h, grande scène de la Paris Games Week. Je crois qu'on sera le 1er novembre. Petite surprise. Petite surprise! Et alors, personne n'est au courant. J'en ai parlé à personne. Je vais animer un truc. PGW, samedi 1er novembre, 18h30. Non, Sugar! Je pense que t'es pas au courant. Hein. Si? Ah! J'ai peut-être liké un truc. Ah, c'est ça. T'es pas très Miyazaki, je m'en doutais. Non, ok, bah Sugar, il a peut-être l'info. Il est fort. Les amis, je vais vous dire un grand merci, mais je vais vous dire un merci du fond du cœur. Parce que, bon, vous savez que parfois, sur les réseaux, parfois, il y a des histoires, des tensions. Voilà. Je vais vous enlever le sommaire, j'ai plus besoin. Sur des histoires qui ne sont pas le cœur de l'activité de cette chaîne. Ici, on essaie de faire des revues de presse, de parler d'actu. Voilà. Et ça dure depuis 5 ans et c'est un bonheur. Et puis, on joue un peu aux jeux vidéo. Vous vous moquez de mon niveau qui est claqué au sol. Bon, c'est ça qu'on fait, quoi. Et puis, voilà, sauf qu'on évolue dans un... On n'est pas tout. On n'est pas tout seul dans son coin. On évolue dans un milieu où il y a d'autres gens, d'autres créateurs de contenu. Puis bon, il se trouve que récemment, il y a eu une histoire ô combien compliquée qui touche à des sujets ô combien sensibles, qui aura dû sans doute rester une affaire privée mais qui est devenue publique. Vous connaissez l'histoire. Et bon, voilà, moi, pour X raisons, je suis intervenu dans cette histoire que j'ai expliquée et j'ai donné ma position parce qu'elle est liée à mes principes de vie, en fait. Voilà. Et puis, ça a dérapé il y a 48 heures avec des gens qui sont allés raconter des horreurs. Des horreurs me concernant directement, peu importe. Sur le sujet, quoi. Donc, sur le conseil de mes proches, j'ai fait un communiqué, là, en début d'après-midi. Ouais, enfin, au milieu d'après-midi, pour dire, la vérité dans cette histoire, quoi. Pour dire, toi, les gars, parce que moi, en gros, comme disait Chirac, ça m'en touche une sans bouger l'autre, mais sauf que ça parlait, en fait, de ma famille, quand même. Et donc, on m'a dit, non, en fait, tu peux pas laisser la rumeur comme ça... courir, parce que si tu laisses la rumeur courir, en fait, quelque part, tu la valides. M'ont dit les gens qui m'entourent, quoi. Et je l'avais pas vu comme ça, quoi. Donc, ils m'ont dit, non, il faut que tu dises que c'est faux, quoi. Alors, je dis, ok. Donc, j'ai fait le communiqué, là, ça, c'est, vous irez lire si vous voulez. J'ai re-essayé d'expliquer ma position. Voilà, bon. Pourquoi j'en parle pas ici? Parce qu'il y a plein de gens qui viennent m'en parler. Parce que c'est pas ce que fait cette chaîne, quoi. Et parce que ce serait quand même dommage que désormais cette chaîne ne soit un endroit où on parle que de ça. Parce que c'est pas du tout le projet, quoi. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit, notamment sur les réseaux, ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que je n'aurai, pas plus l'occasion d'en reparler parce que c'est pas une histoire qui me concerne. Une histoire qui m'appartient, donc voilà. Mais donc, et je voulais une nouvelle fois vous remercier parce que dans le live qu'on a vécu là, notamment cet après-midi, bon, évidemment, les gens sont venus là-dessus, mais j'ai vu que globalement vous étiez sur la revue de presse, quoi. Bah, et ça m'a fait plaisir, donc c'est tout bête, mais je voulais vous dire merci pour ça. Il y a un troisième stream, le troisième stream de la journée qui arrive dans un instant parce que je vais cut. Pour que cette revue de presse puisse aller en podcast audio, puisque vous savez que on fait tous des erreurs, pas de soucis, salut. Ah non, mais j'ai pas fait d'erreur, moi. Il y a Max Monkey qui dit on fait tous des erreurs, pas de soucis. Mais moi, j'ai pas fait d'erreur, moi. Ah non, mais moi, je suis droit dans mes bottes sur cette histoire-là. Ah non, mais j'ai pas fait d'erreur, moi je m'excuse de rien. Hein. Ah non. Ah non. Ah non, mais je m'excuse de rien, moi j'ai pas fait d'erreur. Hein. Et donc, je cut pour que la revue de presse parte en podcast audio sur Spotify, sur. Qu'est-ce qu'il y a sur le podcast Apple, sur Deezer, tout ça. Et puis, d'ici une demi-heure, je relance le live pour du gaming. Ok ? Mais merci, quoi. Merci, les amis. Voilà. Je cut sur TikTok. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à tout à l'heure sur Twitch si vous voulez venir jouer, quoi. Voilà. Merci, Lost in the Process. Merci, Olinox. Merci, Stéphane. Voilà. Et puis, nous, on va arrêter sur Twitch. Attendez. Amis de TikTok, je vous dis bye bye. Je vous dis à demain matin pour la revue de presse. Vers 9h, ok ? Voilà, je serai sur RTL le matin. Je serai sur RTL le matin. Demain matin, j'ai promis de... Alors, je serai pas en direct sur RTL le matin. Vous ne venez pas m'écouter à 8h, mais je serai à 8h pour RTL pour participer à une émission sur la Paris Games Week, justement. Voilà, et donc, ce sera diffusé je ne sais plus quand. Et du coup, j'essaierai de vous rejoindre vers 9h, 9h30 max pour la revue de presse sur Twitch. Merci, je suis Normus. C'est gentil. Voilà. En tout cas, vous avez bien compris que toutes mes prises de position dans cette histoire elles partaient d'un bon sentiment. Voilà. Mais bon, qu'elle est compliquée cette histoire. Alors, qui est en live ? Qui ou Ad ? Merci Maurice, vous êtes vraiment gentil. Hein. Il y a Tommy.
Sur Valo.
L'ascension. Attends, il y a zéro doute. Il y a Tommy. Il y a JL Tommy qui est en live hein, sur ce moment historique pour son équipe e-sport. Hein, voilà, l'ascension. Ils ont gagné le premier match, je crois. Et s'ils gagnent, ils montrent en VCT. Hein, let's go. Ça, c'est super important. Ok. Allez, je raid. On est à 1-1. Oh là là, vite, c'est en BO3. Let's go. C'est parti. Les amis, à tout à l'heure. Voilà, force à Tommy. J'espère qu'ils vont gagner. J'espère qu'ils vont monter en VTC. Voilà, je vois 1-1 là. Vous allez voir où on en est. Je vais écouter un petit peu. Let's go. À tout de suite. Merci encore.
Magnifique, ouais. Je lui laisse pas son ace.
Oh, ils le veulent, hein.
Oh, on a pas d'argent, pour Charon. Dommage. Oh,
oui.
Shin. Oh.
Oh là 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 là.
Oh, putain.
Ah, hyper.